Bien, nous allons commencer. Dans mon cours et dans ce séminaire, nous avons parlé à maintes reprises de transfiguration in situ pour désigner l'aménagement d'un site visant à révéler certains de ses traits ou un schème, en quelque sorte, caché que la transfiguration aurait mis en évidence. Ça concerne un très grand nombre de sites, puisque j'ai évoqué des jardins vivriers, des montagnes, des territoires de diverses natures. Et il y a évidemment une branche très contemporaine de l'art qui peut être définie comme une transfiguration in situ, c'est le land art. Et c'est pourquoi je suis très content que Gilles Tiberghien, qui est philosophe, qui est professeur dans la maison voisine ici, Paris 1, d'esthétique et de philosophie, philosophie de l'art, est accepté de venir nous parler de cette question parce que c'est certainement le meilleur spécialiste du land art. Il a publié il y a maintenant 20 ans, hein, c'est un livre qui s'appelait Land Art. À une époque où c'était une forme d'art qui n'était pas encore très connue, ce livre a été republié récemment, en prenant en compte les développements les plus récents du land art, l'évolution des différents types de... Alors, je ne sais même pas d'ailleurs comment on appelle ça, de réalisation, en tout cas, des artistes du land art. Et donc, je suis particulièrement heureux qu'il puisse venir nous en parler. Et que l'on puisse essayer de comprendre en quoi le land art vient s'insérer ou non dans une tradition d'aménagement des sites qui est peut-être plus ancienne, sans doute plus, certainement en tout cas plus ancienne. Quelles sont les continuités, les ruptures du land art par rapport à cette tradition que j'appelle la transfiguration in situ. Donc merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler.
Merci Philippe Descola de cette invitation. Alors, bon, c'est un peu une gageure, c'est de résumer comme ça en deux heures ce qu'il en est du land art, surtout que je ne vais pas parler que du land art, je vais parler de, comme le titre l'indique, de réalisation in situ, de réalisation en tout cas dans la nature, qui peuvent s'apparenter au land art, mais n'en sont pas à mes yeux, puisque j'ai une acception assez restreinte de ce qu'il faut entendre par land art. Alors, land art, c'est un terme qui n'est pas déposé, si on peut dire. Hein. C'est comme beaucoup de ces désignations, on en trouve d'autres pour caractériser une forme d'art. Earthworks, par exemple, Earth Art. Mais land art s'est imposé progressivement comme peut-être le plus englobant. Et c'est celui que j'ai choisi de conserver, même si, encore une fois, les artistes eux-mêmes qui sont compris à l'intérieur de cette catégorie ne se sont jamais vraiment réclamés du land art, à l'exception peut-être de Desmaria, qui est le premier, parle de land art. Alors, cette histoire, elle commence dans les années 60, en fait. Elle commence à un moment de remise en question du marché de l'art, durant une période de contestation sociale que vous connaissez, de revendications des minorités noires, homosexuelles, lutte des femmes pour le droit à l'avortement, et puis aussi en pleine guerre du Vietnam, ce qui va être très important et fédérateur pour beaucoup. Mais cet arrière-fond politique, disons, ne va pas beaucoup intervenir dans ce que je vais vous raconter. Il faut l'avoir en mémoire, néanmoins, et avoir aussi en mémoire, par exemple, un certain nombre d'avancées dans le domaine des sciences ou dans le domaine de la technique, à savoir en particulier la conquête de l'espace. Ça aura une importance parce que la Terre vue du ciel, non pas simplement d'avions, mais des satellites, imprégnera durablement l'imaginaire de ces artistes, l'imaginaire de tout le monde, bien sûr, mais eux y compris, et un certain nombre de réalisations qu'ils pourront proposer seront liés à ce type de technologie. Par exemple, Desmaria, dont je vous parlerai tout à l'heure, mais je ne montrerai pas le projet, avait eu l'idée de réaliser une œuvre qu'on pouvait voir par satellite C'était une croix dans un carré. Donc une ligne se faisait au Sahara, une autre devait être faite en Inde et un carré aux États-Unis. Et les trois images remises ensemble par satellite produisaient quelque chose, une forme donc, qui n'a jamais été en fait vraiment réalisée, sauf la ligne dans le Sahara. Il a été arrêté à la frontière avec son équipe pour, je ne sais pas, espionnage ou enfin, quelque motif que ce soit. C'était en 68 et ça ne s'est jamais produit. Mais enfin, ça pour vous dire que cet imaginaire technologique lié aux satellites a compté aussi beaucoup pour eux. Alors, plus que de paysages de nature en général, c'est de matériaux et d'espace qui va d'abord être largement question pour ces artistes. Ce qui caractérise d'abord le Land Art, disons, c'est le matériau utilisé par prédilection, c'est-à-dire la terre et ses dérivés. Ensuite, la question du site et de l'espace d'exposition. Et enfin, le contexte historique où il apparaît, c'est-à-dire cette formidable effervescence artistique que sont les années 60, dans le siège de laquelle effervescence se situe le Land Art, en particulier à la suite de Fluxus, ce mouvement qui apparaît au début des années 60, et du minimalisme. Alors, j'ai choisi volontairement de ne pas m'étendre sur ces notions d'histoire de l'art. Néanmoins, on est là dans une période de remise en question des catégories artistiques, aussi bien la musique, la peinture, que la poésie, que le théâtre collaborent, en quelque sorte, ou les artistes, en tout cas, qui seraient censés être attachés à l'une ou l'autre de ces catégories, passent en fait, solution de continuité entre l'une et l'autre. Certains font de la musique, d'autres dansent. Par exemple, Robert Morris, que je vous montre ici, qui est un artiste important de cette histoire, il est à la fois danseur, artiste conceptuel. Il va d'ailleurs traverser toutes ces années-là en étant minimaliste, en devenant land artiste, en se transformant en artiste informel, etc. Et Robert Morris est un bon exemple de ce type de plasticité, en quelque sorte, de capacité à passer d'un art à l'autre et de collaborer avec d'autres artistes. Lui est sans doute peut-être le plus représentant des minimalistes dans le Land Art, puisque c'est lui qui va écrire un certain nombre, alors qui va être probablement aussi le plus visible, mais qui va écrire un certain nombre de textes dans les années 60, exactement en 65. Il écrira Notes on Sculpture, Notes sur la sculpture. Ces textes ont été traduits, deux d'entre eux, il y en aura quatre, les deux premiers ont été traduits dans une anthologie de Claude Jeans, que vous pouvez lire, et dans ces textes, il s'interroge sur le statut des œuvres et par rapport aux spectateurs et leur place dans l'espace d'exposition. Et donc, il réfléchit aux trois termes considérant qu'ils sont solidaires, d'une certaine manière, que se livrant donc à une sorte de phénoménologie, en fait, c'est bien le terme qu'il faut utiliser, puisque ces gens ont lu la traduction de 62 de la phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty, qui a été diffusée très largement dans ces milieux. Ils sont plus ou moins des lecteurs de cela, mais à travers des critiques ou d'autres, ils en ont en tout cas la substance intellectuelle. Et Maurice en particulier, qui est un intellectuel haut niveau, va produire ces textes qui sont une véritable interrogation sur le statut de ses œuvres dans l'espace, où il en vient à imaginer qu'on pourrait en fait non seulement les mettre par exemple devant des architectures, mais beaucoup plus loin dans des espaces qui vont être ceux que les artistes du Land Art vont explorer. Donc Maurice en fait d'une certaine manière à travers cette exploration conceptuelle, intellectuelle de 66, il ouvre la perspective du Land Art qui va commencer à prendre son essor deux ans après, hein, puisque c'est 68 le coup d'envoi. Alors, on pourrait, pour faire l'archéologie de cette tendance, comme l'a fait l'exposition End of the Earth, qui s'est tenue à Los Angeles et puis à Munich en 2012, en remontant à Yves Klein et au groupe Zéro, avec le Sahara Project, Heinz Mack, enfin, tous ces artistes du début des années 60. On pourrait donc revenir à cette archéologie-là en essayant d'isoler l'élément terre. Alors, je pense que cette exposition, en fait, elle a un peu procédé comme celle qui avait été faite en 71, qui s'appelait Earth, Air, Fire, Water, qui était une exposition dans laquelle les artistes étaient isolés et tenus chacun comme représentant d'un de ces éléments, ce qui est en fait une manière assez peu intéressante finalement pour comprendre la dynamique de ce qui se passe alors et en ce qui nous concerne, qui intéresse l'espace, la nature et le paysage. Donc ce n'est pas du tout de ce point de vue-là que je considérerais les choses. Je pense que l'exposition de Munich, qui aurait dû être la grande exposition sur le Land Art, est un peu ratée de ce point de vue-là. C'est une exposition qui raconte l'histoire de la Terre dans l'art, disons, aujourd'hui. Mais le catalogue est intéressant néanmoins, parce qu'en particulier pour ce qui est en amont, vous pouvez regarder ça, ça me semble compléter en tout cas un certain nombre de choses qui ont pu être dites. Donc, ces préliminaires étant faits, et puis encore un autre qui concerne la désignation Land Art, qui, comme je l'ai dit, n'était pas une catégorie labellisée à l'époque, hein, dont aucun artiste ne se réclamait vraiment, on a toute une sorte de un ensemble de confusion autour de ce terme à cette époque. Et Germano Celland, qui est le grand pape, si on peut dire, de l'Arte Povera, c'est celui qui va donner à l'Arte Povera son nom, nom qu'il emprunte à Grotowski, pour partie, au Théâtre Pauvre de Grotowski, hein, Grotowski écrit donc ce texte sur le Théâtre Pauvre en 67, si je ne me trompe pas. Celland, ou peut-être plutôt même 66, Celland reprend ce terme pour parler de cet art dans lequel il va intégrer beaucoup d'artistes américains, beaucoup d'artistes anglais, Richard Long, d'autres, dans un moment de flottement, en fait, qui ensuite va être dissipé. Mais c'est pour vous dire que c'est une nébuleuse assez complexe au début et que le mot Land Art s'impose progressivement, mais que ça n'a pas d'évidence dans ces années-là, pas tout de suite en tout cas. Alors, pour véritablement commencer, on peut dire que tout ça acquiert cette véritable visibilité à partir de deux grandes expositions. L'exposition Earthworks en octobre 68, qui est organisée par Robert Smithson, qui est un des acteurs centraux de cette histoire. Robert Smithson qui va donner le nom Earthworks en deux mots, hein, qui est en fait qui veut dire en fait terrassement, tout simplement, les travaux de terre, mais qui est aussi emprunté en un mot à un roman de Brian Aldiss, qui est un roman de science-fiction qui imagine le monde totalement détruit par une catastrophe écologique. Et cette idée de catastrophe écologique, cette idée d'entropie, comme il dira, va beaucoup l'intéresser pour les sites sur lesquels il va ensuite réaliser un certain nombre d'œuvres. Et puis il y a l'exposition Earth qui aura lieu au White Museum, ensuite avec un certain nombre des acteurs de cette première exposition. On retrouvera Carl André, on retrouvera Demaria, Michael Eiser, Robert Morris, Dennis Oppenheim. Mais d'autres n'y seront pas. Par exemple, Carl André, Herbert Bayer, qui est un artiste plus ancien, un artiste, disons, du Bauhaus, sera un peu comme, pour eux, comme une espèce de père spirituel qu'ils intégreront dans la première exposition. En tout cas, Smithson le mettra dans sa première exposition, alors qu'il est d'une toute autre génération, mais il disparaît dans l'exposition Earth. Alors, je passe le détail de qui est là exactement, mais vous avez, avec les noms que je viens de prononcer, les principaux acteurs, même si dans l'exposition Earth, un peu plus tardive, on trouve par exemple Richard Long, qui n'était pas dans la première, ou Jan Dibetz, qui est un Hollandais. Donc, pour synthétiser ce que je viens de vous dire, pour ne pas produire une confusion, c'est, disons, largement un art américain, quand même, un art qui se produit aux États-Unis, qui est rendu visible aux États-Unis, même si, encore une fois, il y a quelques Européens qui vont participer à l'émergence de ce qu'on va appeler le Land Art, à savoir, en particulier, Richard Long et Jan Dibetz. Alors, je repartirai alors de la Terre, la Terre comme ce premier élément qui doit être, encore une fois, pour être compris comme un des paramètres du Land Art, combiné avec la question du site et l'histoire des années 60. Donc, je le disais, plutôt que de paysage, en fait, ou même parfois de nature, enfin, même si la nature, l'idée de nature est assez, est une idée sur laquelle il faudra revenir, qui n'est pas si simple chez ces artistes, c'est de matériaux disons, et d'espace qu'il est d'abord question. Alors la Terre va être perçue comme une surface d'inscription en premier lieu. Avec Walter de Maria, A Mile Long Drawing, que je vous montre ici, on a une réalisation qui est en fait ce qui reste d'un projet qui était celui que de Maria avait en tête au début des années 60, dès le 62, 63, il a ça dans ses cartons, c'était de faire deux murs dans le désert Mojave, deux murs de environ 3 mètres de haut sur 1 mile de long chacun. Et ça aurait été une sorte de couloir qu'il aurait réalisé et qu'il ne, bien sûr, pourra pas construire, mais qu'il dessinera en quelque sorte au sol. Comme vous le voyez ici, là vous n'en avez que l'extrémité, il y a 3,60 m d'écart entre les deux lignes, mais quand vous les voyez du début, il y a un film qui a été fait, on le voit marcher entre ces lignes, je ne vous le montrerai pas malheureusement parce que je n'ai pas le temps, mais les lignes se rejoignent à l'horizon, au point de fuite, si bien que quand De Maria marche, c'est un film qui a été fait par Gary Schum, qui s'appelle Land Art, Gary Schum étant un artiste allemand qui a filmé ces artistes-là en 69, leur a demandé à chacun un petit scénario. Le scénario de De Maria, en fait, reprend ce dispositif. On le voit marcher vers le point de fuite, et puis la caméra tourne sur elle-même. Ça s'appelle « Two lines, three circles ». Il marche, la caméra tourne une première fois, il est avancé, une deuxième fois, il est beaucoup plus loin, et la troisième fois, il a disparu au point de fuite, ce qui est une très belle réalisation, aussi même symbolique, puisque, au fond, l'homme disparaît au point de fuite par le point inverse de celui par lequel il était rentré dans la peinture à la Renaissance, un moment de l'humanisme, et ici, on est dans un moment d'anti-humanisme, en quelque sorte, un moment où Foucault peut écrire que l'homme est quelque chose de disparaissant, comme une vague au bord de l'eau, à la fin des mots et des choses. Alors, cette œuvre est importante, elle est en même temps le reste de quelque chose qui aurait pu se faire et qui subsiste ainsi. Elle est réalisée avec Michael Heiser, qui est donc le Benjamin de cette bande, si on peut dire, qui va être très ami avec De Maria et qui, lui, à cette époque-là, a 22 ans. Oui, ces gens, ils ont entre 22 et 30 ans à peu près, hein, quand ils font tout ça. De Maria donc continue à cette époque à marquer au sol de grandes lignes, comme ici Cross, qui est une croix de 1,6 km sur 330 mètres. Il en réalisera ainsi un certain nombre qui, j'y reviendrai, nécessite donc d'être forcément vu d'avion pour pouvoir être bien comprises dans leur totalité. Ce sont des lignes qui sont faites avec des instruments dont on sert sur les terrains de football, vous savez, ces espèces de roues et qui suppose une marche, en fait. C'est une marche qui suppose donc un déplacement, le déplacement du corps, ce qui est important parce que dans ces années-là, il y a beaucoup d'intérêt pour ce qu'on va appeler plus tard le body art, ce qui a déjà été mis en évidence à travers, je vous l'ai dit, les rapports entre l'art visuel, les arts plastiques et le théâtre, ce qui a été aussi très important au moment des happenings, c'est-à-dire la fin des années 50 et début des années 60, ces réalisations donc assez spontanées, mais avec quelques codifications dans lesquelles les gens jouent une sorte de partition. Ces artistes du Land Art sont aussi l'héritier de ça. Et on voit dans une petite œuvre de Heiser, qui est en fait très isolée dans sa production, Foot Kick Gesture, juste la marque au sol de ces talons, et qui en fait figure dans le catalogue de 84 du MoCA, où on voit qu'il tient quand même à cette réalisation, même si elle est presque infime, c'est la trace dans la terre, simplement, la trace de son corps dans la terre. Cette préoccupation va disparaître, mais il est significatif qu'il l'ait quand même gardé à ce moment-là. Ces œuvres sont souvent très graphiques, comme ici Dissipate, qui est en fait réalisés dans le Black Rock Desert, qui est le résultat d'un processus aléatoire, puisque, en fait, à la manière de Duchamp, que ces artistes connaissent bien et qui a beaucoup d'importance pour eux, même s'ils ont un rapport assez conflictuel avec lui pour un certain nombre d'entre eux, comme Smithson, par exemple, à la manière de Duchamp qui, vous vous rappelez, prend un maître, le laisse tomber, et quand il tombe, à chaque fois, redessine le dessin, enfin la forme qu'il a. Donc c'est trois fois un mètre, mais à chaque fois, il a une distance différente, et donc ça s'appelle trois stoppages d'étalons, c'est trois fois un mètre qui est plus ou moins long selon le hasard, enfin la chute, la forme que le hasard lui a donnée dans sa chute. Et Heiser va faire au fond d'une certaine manière un peu la même chose avec, avec cette œuvre, Dissipate, qui est en fait réalisée, enfin, ce sont des sortes de gouttières en bois qui ne font pas plus de 2 mètres chacune, qui sont peintes en gris, et elles sont le résultat de la chute d'allumettes sur un carton qui va coller ensuite et qui va disposer au sol tel que vous l'avez vu, avec toujours le souci de, alors ici un peu moins, mais toujours le souci d'avoir un ciel très haut, et parfois extrêmement haut, vous le verrez, pour donner à ces œuvres une très grande dimension, enfin donner l'impression en tout cas qu'elles sont très grandes. Et il démarchera d'ailleurs, à l'époque, il a donc 22-23 ans, il n'a pas d'argent, il démarchera auprès des galeristes pour montrer ses œuvres avec ce dispositif, en ayant soin d'ailleurs de photographier, ce qui ne fera plus ensuite, la détérioration de ses œuvres. Il le fera très systématiquement, et là on voit donc Dissipate au moment où elle est en train de se briser. Assez benoîtement et naïvement, quand je l'avais rencontré il y a 20 ans, je lui avais demandé si le double négatif que je montrerais était aussi que ça faisait partie du processus de qu'il se détaillait, en fait, que c'était compris, si je peux dire, dans la façon d'envisager l'œuvre. Il m'avait dit non, pas du tout. Pas du tout. Si on pouvait le restaurer, si on pouvait restaurer cette œuvre, je vous montrerai comment elle est, eh bien, j'accepterais volontiers. Donc, c'est pas quelque chose de systématique, mais à cette époque-là, fin des années 60, ces processus de détérioration l'intéressent. Rift est un exemple encore où là on voit que le ciel est encore beaucoup plus haut et ça donne l'impression de quelque chose de très très grand. Alors ces œuvres ont été photographiées aussi d'avion, je vais vous reparler de cela, de ces dispositifs, et c'est même la couverture de Life, enfin pas la couverture pardon, mais dans Life il y a publié dans le numéro de décembre sur les grands événements de l'année cette image avec un hélicoptère au-dessus et puis à côté on a des... on a la surface de la Lune, et puis de l'autre côté, on a un territoire qui a été très durement pollué, en quelque sorte, enfin, et qui parle d'écologie. Donc trois photos, et cette image est au centre, curieusement. Alors, le statut de cette œuvre est curieux, il est entre ces trois images, il faudrait l'examiner de près, mais ça veut dire quelque chose pour l'époque, et ça mériterait d'être analysé. Dans End of the Earth, il le montre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec leur interprétation, mais je vous le signale parce que c'est tout d'un coup une image emblématique de quelque chose qui pourtant vient juste d'émerger et qui est mis en rapport avec deux très grands... de très grandes causes, enfin la conquête de la Lune, et puis quelque chose qui n'est pas, qui est perçu comme très lointain aussi lointain que la conquête de la Lune, l'écologie. C'est-à-dire que l'écologie n'a pas d'évidence en fait à l'époque, c'est quelque chose dont on sait qu'il faut se préoccuper, mais elle n'a pas du tout le statut qu'on lui donne aujourd'hui, et si bien qu'en fait quand on parle de ces artistes, on ne doit pas penser que ce sont des gens très préoccupés par cette écologie. Ils le sont, mais aussi vaguement que la plupart des gens. Et puis Heiser est le... Va s'intéresser aux pétroglyphes, va s'intéresser à toutes sortes de formes. Alors, je ne m'attendrai pas là-dessus, c'était un choix que je pouvais faire, vous en parlez davantage dans un séminaire où il est question d'anthropologie, mais ces artistes vont être très impressionnés par les tumuli indiens, par exemple, par des constructions méso-américaines ou sud-américaines, des édifices religieux ou civils, etc., qui vont beaucoup les imprégner et dont on retrouve des citations dans leurs œuvres. Ici, la citation, ce sont des pétroglyphes que connaît très bien Heiser, puisqu'il est le fils, en fait, de Robert Heiser, avec lequel il a voyagé beaucoup quand il était enfant. Il a fait plusieurs voyages, même à 14 ans, puis plus tard, il est retourné dans le Yucatan avec lui en 72, à l'époque il a 28 ans, pour examiner à l'époque dans le Yucatan comment est-ce qu'on transportait les énormes mégalithes. Donc il a regardé ça de très près et toute son œuvre est très imprégnée en fait des travaux de son père, de l'anthropologue donc Heiser. Enfin, je vous le signale en passant parce que c'est très important pour tout un ensemble d'autres œuvres que je ne vous montrerai pas, mais qui il faut en tenir compte. Alors, parmi aussi, pour rester toujours dans cette surface d'inscription, enfin la Terre comme surface d'inscription, on peut citer le cas de Dennis Oppenheim, qui est un de ces grands artistes du Land Art aussi, qui lui a beaucoup travaillé dans la neige et la glace. Et ici, il est dans... Annual Ring, c'est une œuvre qu'il va réaliser pour l'exposition Earth Art, qui en fait est une représentation du temps, une double représentation du temps contradictoire, puisque le fleuve, c'est celui dans lequel on ne descend jamais deux fois, c'est la flèche du temps, hein, le temps passe et ne repasse pas. Donc on a cette représentation du temps par soustraction, et puis on a la représentation contraire du temps par addition, puisque ce sont comme les cercles d'âge des arbres, et ces deux représentations contradictoires sont d'une certaine façon synthétisées ici. La Terre étant aussi avec une moto, Oppenheim fait One Hour Run, donc c'est dans la neige avec une skidoo. Il se sert de la neige comme d'une sorte de toile, en quelque sorte, sur laquelle il va tracer des lignes. Là aussi, on voit l'importance du corps, la place du corps dans ce travail, qui sera, pour Oppenheim, extrêmement central, puisque lui sera un des artistes de ce qu'on appellera, presque de façon concomitante, dès 1969, le body art. Il travaillera avec son corps, il s'exposera au soleil, avec un livre où il se fera brûler plus ou moins par le soleil, le livre restant une marque blanche sur son corps, enfin, une série comme ça de performances, si vous voulez, pas exactement des performances, mais des résultats de performances qu'il ne fait pas forcément public, qu'il montrera à travers des images. Et Oppenheim s'intéressera beaucoup aux vues. Alors, il a là dans cette œuvre assez intéressante Target, qui avait été montré dans l'exposition sur la vue aérienne au Centre Pompidou Metz l'année dernière, qui est moins connu souvent que les autres. On a le sentiment que là, l'œuvre, elle est faite pour être, de par son titre, atteinte en quelque sorte par un avion, par une bombe, par quoi exactement. C'est une œuvre assez agressive et qui inaugure en fait un certain nombre de propositions de Oppenheim qu'il fera dans les années suivantes, qui sont des œuvres assez violentes. Mais je vais revenir sur cette question du ciel. Alors là, vous avez aussi, ça serait intéressant aussi à analyser parce que c'est un dispositif. C'est-à-dire qu'on est face à la question de ce que l'on montre, de ce qui est accessible, de la façon dont on va composer les images, les cartes, les photostats. Et Oppenheim est un maître de la chose. Donc chez lui, il y a beaucoup de ces œuvres qui sont des collages qui permettent de comprendre conceptuellement comment les choses ont été faites et qui ont en fait plus d'importance finalement, mais ce n'est pas tout à fait vrai, disons, autant d'importance que ce à quoi elle renvoie. On ne peut pas aller voir ce qui a été fait, c'est très éphémère, ça a disparu, il nous en reste ces dispositifs, et pourtant ça a été fait. Donc ce n'est pas des choses qui sont simplement imaginées, ce n'est pas seulement des projets, donc c'est un statut plus complexe. Alors, c'est la Terre aussi, j'ai dit la Terre comme surface d'inscription, mais la Terre comme matériau. Le matériau est très central. L'idée de la pesée, l'idée qu'on voit ici, par exemple, avec cette œuvre de Robert Smithson, Asphalt Rundown. Alors, vous me direz, est-ce que c'est vraiment une œuvre? Mais oui, c'en est une. Il suffit de déverser dans une carrière abandonnée près de Rome de l'asphalte chaude, teinte en bleu. Il y a un film de ça, d'ailleurs, qui permet de voir la coulure, en fait, de cette... cet asphalte sur la pente. Et c'est quelque chose qui intéresse beaucoup Smithson. Il en fera toute une série, là je vous en montre une qui s'appelle Glue Pour, avec des conteneurs de colle qui va liquéfier à sa façon et qu'il déverse sur des pentes. Et tout ça en fait un peu en hommage à Jackson Pollock, qui les a beaucoup impressionnés tous, qui appartient à la génération précédente et qui est l'auteur de ces fameux drippings. Et ce qui les a impressionnés le plus, probablement, c'est aussi cette image et le film qui accompagne, c'est-à-dire les photos de Namut et le film que Namut avait fait de Pollock en train de tourner autour de ses toiles et de produire ces coulures qu'on appelle des drippings avec des bâtons. Alors il y a toute une gestuelle, on voit Pollock ici comme un félin qui est sur... ça va beaucoup contribuer à l'image de Pollock, de cet artiste très, très physique, hein, qui en plus regarde d'en haut les toiles, même si ensuite elles sont faites pour être mises au mur. Ça, c'est tout un problème de savoir si... elles sont faites pour être vues verticales. Léo Steinberg, lui, parlera de flatbed en disant qu'il y a peut-être aussi d'autres œuvres qui sont faites pour être vues comme si elles s'étaient vues d'en haut. Voilà, c'est pas... Bon, mais néanmoins, il est important de comprendre que pour eux, pour ces artistes, la vue d'en haut, telle que Pollock nous la soumet, va être centrale ensuite pour comprendre comment ils vont restituer ces énormes, la représentation de ces énormes œuvres qu'ils vont faire. Comme par exemple Dennis Oppenheim en Hollande, Cancel Crop, où il fait un grand X dans un champ, qui est un X aussi symbolique parce qu'il va soustraire en quelque sorte la récolte en question et distribuer cette récolte en la retirant du circuit du marché. Alors, à l'époque, circule le livre de Maria Reich, Mystery in the Desert, qui est en fait un livre où elle s'interroge sur le sens des lignes de Nazca. Et ces lignes vont être un objet d'interrogation chez ces artistes, et en particulier la façon dont elles sont perçues. En effet, on se demande comment est-ce que, en dehors du ciel, on peut en comprendre le dessin. Ce sont des lignes immenses qui sont au sud du Pérou, qui ont été préservées grâce à un climat particulier qui fait que la nuit, comme ça gèle presque, c'est toujours très durci. Hein, et donc, elles n'ont été détériorées que très récemment, en réalité, pas beaucoup détaillées, mais en partie parce que des motos ont commencé à faire des circuits sur ces lignes. Donc, heureusement, elles sont maintenant à l'abri. Mais très longtemps, donc, elles sont restées ainsi visibles, mais visibles difficilement au sol. À cette même époque, Marlene Bridges, quand on en a montré des photographies à l'exposition du Centre Pompidou-Metz sur la vue aérienne, Marlene Bridges va faire toute une série de photos sur Nazca, de très belles photos d'ailleurs, dont elle fera un album et qui témoigne de l'intérêt que la plupart de ces artistes, qu'ils soient photographes ou autres, prennent aux lignes de Nazca. Et ces lignes, on en voit par exemple un autre. Ici, vous avez Richard Long, Walking a Line in Peru, 1972. Richard Long, l'œuvre en question, ça n'est pas la ligne tracée, c'est la marche sur la ligne. Ce que nous montre Richard Long, c'est simplement le tracé de la ligne sur laquelle il a marché. C'est rien d'autre. C'est juste ça. C'est comme le souvenir de cette marche qui est cristallisé en quelque sorte dans cette photographie. Alors, c'est important, vous allez encore mieux le comprendre, parce que d'autres de ces œuvres sont peu visibles autrement que du ciel, ou en tout cas, il va falloir en faire l'expérience et en même temps comprendre leur forme du ciel. Mais c'est à la même époque que Robert Morris va publier un texte dans Art Forum, où lui se propose alors non pas de voir les lignes d'en haut, comme on le fait normalement pour saisir la forme, mais de marcher sur ces lignes. C'est-à-dire qu'il refuse de prendre un avion ou un hélicoptère et il décide de comprendre ce qui se passe, ce que l'on voit quand on est en train de marcher. Et le désert, pour lui, dans ce texte qui s'appelle « Line with Nazca », que j'ai traduit dans le livre Land Art, qui est traduit sous le titre « En route pour Nazca », qui n'est pas évidemment le texte littéral, le titre littéral, mais qui rend compte du fait que ça commence comme un journal, en fait. Hein. Maurice raconte comment il va à Nazca. Et le désert, pour lui, ce ne sont pas simplement d'immenses étendues arides, dit-il en substance dans ce texte, c'est aussi une autre façon de regarder le paysage. Et il va opposer dans ce texte, parmi d'autres choses, mais il va opposer un couple conceptuel, le plat, l'espace neutre et symbolique, et le spatial. Ce qu'il appelle le spatial, c'est-à-dire l'espace pour le sujet qui fait concrètement l'expérience du monde. Et cette opposition, comme certains l'ont noté d'ailleurs, n'est pas sans rappeler l'opposition qu'on peut faire entre l'espace géographique et l'espace paysager. C'est-à-dire l'espace géographique, celui que l'on peut représenter, cartographier, l'espace paysager, celui dans lequel on va pénétrer, dont on va faire l'expérience, et d'une façon assez différente. C'est dans l'expérience réelle du spatial que Maurice comprend alors la continuité entre ce qu'il appelle le self, le soi, disons, en reprenant le terme à George Herbert Mead, et la continuité entre le soi et le monde, entre, disons, le sujet et l'objet. Alors, le plat, si on reprend cette opposition entre le plat Et le spatial, le plat, c'est ce qui nous permet, dit Maurice, de maîtriser le temps et l'espace. Mais il exclut en même temps le monde sensible. Dans le monde des surfaces planes, la notation est reine. Le contrôle est total. C'est le monde de la carte. C'est aussi celui de la vue aérienne. Dans le monde en trois dimensions, dans le monde du spatial, en revanche, le contrôle manque, rien n'est sûr, l'errance est toujours possible. Et il faut envisager Nazca, selon lui, comme la synthèse de ces deux types d'expériences. Nous sommes prêts, je cite pour que vous ayez un peu une vision de ce texte, qui n'est pas toujours très clair ni simple, je durcis un peu les oppositions. Nous sommes prêts, dit-il, à inclure dans notre vision du tracé de Nazca la totalité du paysage. Nous devons prendre en compte non seulement les lignes, mais les montagnes. À supposer que les premières indiquent tant des sources d'eau bien réelles que des points de force spirituels localisés dans la Sierra, nous sommes alors en présence des couples dialectiques suivants, le plat et le spatial, la ligne et la montagne, la figure et l'objet, l'abstraction et la réalité. Ici, ajoute-t-il, le symbole artefact opère de façon à orienter vers un projet humain les forces de la nature. Celles-ci circulent le long des traces laissées par l'artiste, dont le symbole linéaire agit comme le conduit d'une énergie spirituelle qui refluerait vers lui tout au long des lignes. Donc, c'est un texte important pour lui, c'est un texte important et qui lui fait penser qu'en fait, la vue aérienne ne restitue quelque chose auquel il veut échapper, ou en tout cas ne permet pas de comprendre la complexité du paysage dans ce rapport entre justement le plat et le spatial qui sont à comprendre ensemble et non pas à séparer. Et si on est dans la vue aérienne, on n'est pas dans le paysage. Alors, Robert Smithson, je vous montre donc la couverture de Art Forum où cet article avait été publié et qui montre justement, c'est une revue d'art, hein, d'art contemporain, dans lequel on montre la ligne de Nazca, cette ligne de Nazca, pour annoncer l'article de Robert Morris. En fait, cette expérience du ciel, cette expérience de la vue aérienne, elle est importante aussi pour quelqu'un comme Robert Smithson, au point que Robert Smithson avait été approché par une agence d'architecture en 67 pour réfléchir à des œuvres autour d'un terrain, un terrain à Dallas, autour d'un terrain d'aviation dans l'aéroport régional de Dallas. Donc on lui avait proposé de réfléchir à ce que pourrait être un art, qu'il appellera d'ailleurs un art aérien, c'est-à-dire qu'un art qu'on pourrait voir d'avion, en atterrissant ou en décollant. Il va passer un an et demi là-dessus. En fait, il ne va jamais réaliser vraiment l'œuvre en question, mais il va beaucoup y réfléchir, il va y consacrer des textes, de l'énergie, il va y engager Robert Morris, Sol Lewitt, Carl André, qui auraient dû eux-mêmes produire des œuvres autour de cet aéroport. Mais je vous en montre deux projets, l'un en forme de toile d'araignée, l'autre qui sont des espèces de serpents de terre qui sinuent autour. Le projet était complexe, il y avait des caméras qui devaient être à l'extérieur, il y avait des moniteurs à l'intérieur de l'aéroport qui permettaient de saisir ce qui se passait dehors et dedans en même temps. Enfin bon, c'était tout un dispositif très intéressant, mais qui vont... Toute cette réflexion va beaucoup compter pour lui et il dira même que c'est à l'origine finalement, que ce sera à l'origine de son intérêt pour les Earthworks et que probablement c'est là qu'il a eu l'idée de les réaliser, hein, voyant en fait dans l'art aérien la possibilité de réfléchir essentiellement à l'échelle plus qu'à la taille. Ce qui compte pour Heiser, ce qu'on peut opposer quand on oppose ce que je fais généralement Robert Smithson et Michael Heiser, ce qui compte pour Robert Smithson, c'est l'échelle essentiellement. C'est le rapport d'échelle, c'est-à-dire en fait quelque chose qui est comme le passage d'un ou de plusieurs espaces, mental en l'occurrence, à un ou plusieurs autres espaces réels. Passage de l'imaginaire au réel. Et cette échelle, cet intérêt pour l'échelle, il le comprend à partir du moment où il réfléchit à l'art aérien, comme il l'appellera, Aerial Art. Il publiera ça en 69. Vous avez ce texte qui a été traduit, si vous voulez le lire, dans le catalogue aussi du Centre Pompidou-Metz. texte dans lequel il dira qu'à travers la photographie aérienne, je le cite, le vieux paysage du naturalisme est remplacé par le nouveau paysage de l'abstraction et de l'artifice. Et ce qui l'intéresse, lui, ce sont surtout les rapports de vitesse qui se passent entre en décollant et en atterrissant. Et donc, il est plutôt engagé dans une sorte de rapport physique à l'espace plutôt que dans une représentation. Il échappe un peu à la critique de Maurice de ce point de vue-là. Ce qui l'intéresse, c'est ce qui se passe pendant le moment de l'atterrissage et du décollage en rapport avec le paysage. C'est le rapport du spectateur au paysage dans cette vitesse-là. C'est pour ça qu'il en viendra ensuite pour son œuvre la plus fameuse, Spiral Jetty, à réaliser un film qui la montrera aussi d'avion, pas seulement, mais aussi d'avion. Alors, Spiral Jetty, c'est l'œuvre la plus connue du Land Art, c'est l'œuvre emblématique, on peut dire. Elle est tellement emblématique que, par exemple, je vous montre ça pour, avant d'y revenir, Mark Tanzé a pu la représenter avec ses Indiens, dans un décalage temporel étrange, ces Indiens qui semblent sortis d'un tableau de Remington, qui l'observent dubitatif du haut du rocher. Et j'ai mis en regard une photo de Hikmet Low, qui est une jeune femme qui habite à côté du Grand Lac Salé et qui m'a fait irrésistiblement penser à ce tableau avec ce cheval qui est magnifique. Cette photo me fait beaucoup rêver. La spirale étant d'ailleurs de façon régulière sous les eaux, puisque le lac en fait varie et qu'on ne peut y aller que pour la voir qu'à certains moments. Ça reste 2 ans visible et puis ça repasse sous l'eau, etc. Alors, ça participe de la mythologie de cette spirale. Voilà la spirale en question, donc dans une de ses photos les plus connues. Smithson va la réaliser dans le Grand Lac Salé de l'Utah. Il cherchait à l'époque un lac aux eaux rouges. Et on lui avait dit qu'en Bolivie, il pouvait s'en trouver, la chose étant difficile en fait pour lui. Après quelques démarches, il s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas réaliser ça simplement pour des histoires de droit. Quelqu'un lui a signalé qu'il existait des eaux rouges liées à la présence d'algues dans l'Utah, à cet endroit. Et il s'y est rendu et c'est là qu'il a pris une concession qui a été perpétuée. Ça ne lui appartenait pas, une concession de 20 ans qui a été reconduite. Et il a réalisé donc cette spirale qui est très graphique, qui en fait est le résultat plutôt que d'un projet a priori, qui aurait dû être une île, de l'observation du site lui-même, puisque quand il est sur place, il a l'impression, raconte-t-il, qu'il est pris d'une immense giration, que le site tourne sur lui-même. Et c'est ce sentiment du tourbillon qu'il va traduire en transformant l'île qu'il avait prévu de produire en spirale. Donc vous voyez, c'est d'une part une démarche de peintre, il s'intéresse d'abord à la couleur de l'eau, au fait que les eaux doivent être rouges, c'est ça qui le fascine en premier lieu. Et puis quand il est sur place, tout d'un coup, il se rend compte que son projet ne peut pas être ce qu'il imaginait, parce que le site commande autre chose, et il va produire du coup cette spirale. Et cette spirale, il va l'accompagner, donc je vous l'ai dit, d'un film qui va rendre compte de sa construction, et aussi de son imaginaire, puisque je vous ai dit que l'échelle était centrale pour lui, et c'est cette échelle qui, au fond, fait que malgré sa très grande dimension, elle est un objet aussi qui appartient aussi à l'imaginaire, non seulement de Smithson, mais à un imaginaire mythologique, en quelque sorte. La spirale, en fait, elle reprend une forme, ce qu'il l'apprend que plus tard, d'un tourbillon qui serait censé, dit-on, relier le lac à l'océan. C'est une légende indienne, mais qui va évidemment reprendre à son compte. Et donc, il inscrit dans le temps mythologique et dans le temps historique aussi, parce qu'un peu plus haut, il y a l'endroit où se rejoignent les deux lignes de chemin de fer du Pacifique et Atlantique, à Promontory Point, qui lui semble un point historique, c'est un point qu'on va toujours visiter d'ailleurs, manifeste en quelque sorte. Il l'inscrit donc dans le temps mythologique, dans le temps historique et dans le temps phénoménologique, puisque cette spirale suppose aussi, je vais y revenir, qu'on en fasse une expérience, qu'on marche dessus, ce qu'il va faire dans le film. Je ne peux pas vous montrer le film qui est très beau. Le film, si vous voulez, il appartient en fait à ce que Smithson va décrire comme un non-sight. Alors, pour faire simple, je rappelle cette opposition entre sight et non-sight. Le sight, disons que c'est l'endroit où se trouve la spirale, le site. Et le non-sight, ce sont les photographies, les dessins, les cartes, le film, et puis ce que je raconte. Ce que je vous dis, c'est un non-sight, d'une certaine façon. C'est-à-dire tout ce qui peut informer l'œuvre sur le site. Jouant avec l'homophonie et avec de sight, vision, non-sight, non-vision. Donc, sight, c'est la vision, non-sight, c'est la non-vision, et c'est une dialectique pour Smithson, c'est une dialectique complète, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Le site va toujours avec le non-site. C'est quelque chose qui... les deux s'informent mutuellement, en quelque sorte. C'est pas décoratif, c'est pas en plus, c'est constitutif. Et cette dialectique, il la mettra au point quelques années avant avec des œuvres qui, elles, ne supposaient pas, dès 68, qu'on aille sur les sites, parce que c'était des œuvres réalisées dans soit des carrières abandonnées, soit des lieux qui étaient comme des bretelles d'autoroute, des chantiers laissés à eux-mêmes, d'où ils ramenaient des matériaux qu'ils disposaient dans des conteneurs et qu'ils montraient dans des galeries, avec la carte d'où provenaient ces matériaux. Mais ça ne supposait pas, de notre part, d'aller voir sur place ce qu'il y avait. Néanmoins, ils les appelaient des non-sites. C'est comme ça qu'ils commencent. Et, ensuite, ils prennent tout leur sens avec les premiers earthworks de Smithson. Il n'y en a que 5. Ils commencent en 70. Il y a Partially Buried Woodshed. C'est une cabane à bois sur laquelle il va déverser 20 tonnes de terre pour produire un craquement. C'est ça, l'œuvre. C'est donc ce qui va correspondre à son idée de l'entropie, je reviendrai là-dessus. Ensuite, il produira la spirale, puis une œuvre en Hollande qui s'appelle Spiral Hill Broken Circle, qui sont un couple d'œuvres dans une carrière abandonnée. Et puis enfin, la dernière œuvre, en 73, au moment où il va mourir, puisqu'il meurt sur le site de cette œuvre dans le Texas, qui s'appelle Amarillo Ramp. Il n'a pas le temps de la réaliser, il la survole en avion, l'avion s'écrase, et c'est sa femme avec Richard Serra et Tony Schiavarzi qui vont terminer cette forme qui est une sorte de serpent qui se mord la queue, qui est donc le cinquième earthwork. Donc il n'y en a que 5, hein, c'est pas beaucoup. Ça c'est donc la plus connue, hein, le plus connu de ces earthworks, ils les appellent les earthworks, hein, à chaque fois c'est le terme qu'il utilise, en référence évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à cette... nouvelles de science-fiction de Brian Aldiss et puis aux travaux de terrassement que signifie ce terme. C'est une œuvre en même temps qui est très graphique, on le voit. Hein. C'est une œuvre que Richard Serra décrira comme une sorte de dessin au sol. Quoi. Le film montre aussi Smithson en train de courir sur cette œuvre qui évoque en partie le film de Hitchcock, vous savez, sur le Mont Rushmore, enfin bon, qui se termine North by Northwest, hein, qui se termine sur le Mont Rushmore. Mont Rushmore très important pour tous ces gens, mais il y a un moment Cary Grant donc court dans les champs, et c'est une citation en fait hein, de ce film. Il y en a beaucoup, il faudrait l'analyser en détail, mais j'ai pas le temps de vous le faire, mais je vous le cite, je vous le signale quand même. L'autre œuvre emblématique, c'est celle de Michael Heiser, Double Negative, qui va réaliser un peu avant l'œuvre de Smithson, Spiral Jetty. Elle est réalisée, en fait, comme vous voyez, elle fait... je n'avais pas mis la longueur, c'est curieux. Elle fait 5 mètres... excusez-moi, elle fait 400... 76 mètres, je crois, de long, donc 9 mètres de large et 15 mètres de profondeur. C'est une œuvre qui est sur un plateau et que vous ne pouvez pas voir avant d'y arriver à 5 mètres, à peu près. Quoi. Si vous allez là en voiture, je vous conseille de vous munir de boussoles et de cartes et puis de vous signaler votre passage à l'aéroport juste avant, il y a un petit aéroport local. Vous ne découvrez l'œuvre qu'à quelques mètres de vous. Et en fait, ensuite, vous pouvez y pénétrer. Il faut y pénétrer comme vous voyez. Alors, elle a été assez sévèrement abîmée. On voit là, à droite, l'état le meilleur. Hein, c'est l'état au début. Mais ce coin que vous voyez, il est éboulé pour une partie. Elle est quand même très visible encore graphiquement d'en haut. Et vous voyez que là, on a deux vues. Je les montre toujours ensemble parce que on ne comprend pas ce qu'elle est si on ne voit pas la vue d'avion. vous imaginez une sorte de règle carrée, enfin, vous voyez, que vous enfoncez dans un plateau, comme ça, et ça, ça, c'est comme une empreinte gigantesque qui aurait été faite. En fait, c'est creusé au bulldozer, c'est 240 000 tonnes de terre de rhyolite qui ont été explosées et ensuite creusées au bulldozer, et le creusement a permis de produire des sortes de rampes de part et d'autre, rampes qui ne se touchent pas. Il y a un creux entre les deux. Vous voyez. On ne peut pas aller d'un bout à l'autre. On doit s'arrêter, on doit ressortir, faire le tour et revenir. Ce qui faisait dire à Rosalind Krauss, dans un texte qu'elle a écrit sur cette œuvre, qu'en fait, on ne peut jamais occuper le centre comme un esprit occuperait le centre d'un corps. Et elle fait tout un développement autour de cette position Wittgensteinienne, hein, du rapport de l'esprit au corps. Bon, enfin, c'est son interprétation, mais c'est pas inintéressant, mais disons que ça souligne en tout cas le fait qu'il faut toujours l'aborder par les bords. Et aussi, surtout, ce que j'appelle moi un principe esthétique d'incertitude, l'œuvre ne se donne jamais d'un seul point. C'est-à-dire que quand vous allez voir cette œuvre, vous avez en tête son schéma, cette image de gauche. Mais quand vous allez en faire l'expérience, vous le perdez de vue, vous ne pouvez pas reconstituer, c'est trop grand. Vous rentrez à l'intérieur, vous en faites l'expérience physique, et puis vous devez tourner autour, revenir, etc. Et quand vous rentrez chez vous, vous regardez à nouveau les photos, mais vous n'avez plus l'expérience en question. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... vous êtes pris entre deux... un peu ce que disait Maurice à propos du spatial et du plat et du spatial. C'est-à-dire que vous êtes toujours dans une expérience contradictoire. Vous êtes dans la représentation, mais vous avez le souvenir de l'expérience. Vous êtes dans l'expérience, mais vous avez le souvenir de la représentation. Vous êtes toujours dans cet entre-deux. Et c'est ce qui fait la force de ces œuvres qui sont très puissantes à l'image, mais dont il faut néanmoins faire l'exploration. Si vous ne le faites pas, vous vous contentez de quelque chose qui est un reste. Ce ne sont pas des images. C'est pour ça que Heiser, d'ailleurs, refuse généralement de donner ces images, pas celles-là mais d'autres, parce qu'il dit il faut en faire l'expérience. La notion d'expérience elle est centrale pour les œuvres du Land Art. Si vous n'en faites pas l'expérience, vous n'en avez rien, vous n'avez que des reliquats. Il y a aussi chez Heiser, Heiser lui est beaucoup plus fasciné par la taille que par l'échelle, comme je vous le disais. Et il y a aussi le sentiment du déplacement. Ce qui intéresse Heiser, c'est le déplacement, c'est la possibilité de déplacer des matériaux, de charrier des matériaux. Beaucoup de ses œuvres vont être... Là, ici, il y a 240 000 tonnes déplacées. Hein. Cette idée de déplacement est constitutive de l'œuvre. Elle fait partie du processus. Et... bon, je vous montre cette image qui est dans le catalogue de Smithson, qui est pour lui un des grands, même si du point de vue du stylistiquement, ça n'a rien à voir avec ce que font ces... enfin, si le mot style est d'ailleurs pas approprié, mais disons que formellement, ça n'a rien à voir avec ce que font ces artistes. C'est néanmoins quelqu'un dont se réclame, par exemple, Heiser, pour ses cliff sculptures. Il y a toute une série de cliff sculptures qu'on trouve en Inde, il les liste et les photographie dans son catalogue. Et celle-ci est proprement américaine et l'intéresse précisément parce qu'elle est américaine. Donc il y a la revendication chez quelqu'un comme Heiser d'un art américain. Et pour ces déplacements, voici par exemple Displace Replace Mass. Là, je vous en montre deux. C'est quand même 72 tonnes, 43 tonnes. Et il y en a une troisième qui fera... qui fait combien ? Qui fait... enfin, peu importe. Oui, 68 tonnes. Enfin, ce sont des chiffres, mais c'est énorme. Et alors, je vais vous montrer... c'est quelque chose qui l'a beaucoup obsédé, cette idée du déplacement des masses, pour vous dire que c'est ça aussi qui l'intéresse dans ces grands espaces. C'est pas simplement le paysage au sens où on l'entend généralement, c'est même très peu, ça, pour ne pas dire pas du tout. Il va imaginer, dès 69, le déplacement d'un énorme mégalithe, qui va réaliser l'année dernière, enfin il y a un an et demi, au LACMA, qui va amener au LACMA, qui est Levitated Mass. Et cette idée que les rochers peuvent léviter. Alors ici, la photo est prise d'en dessous, elle n'est peut-être pas le meilleur point de vue pour comprendre ce sentiment de lévitation, mais je vais quand même vous montrer un extrait de 2 minutes qui m'avait été proposé quand j'avais republié Land Art en 2012, j'avais montré une série de films au Centre Pompidou, Et celui qui a filmé le déplacement de ce rocher gigantesque m'avait gentiment fait un petit film de 2 minutes. Et vous allez voir comment il se déplace. Ce déplacement a eu lieu donc en 2012. Il a mis 10 nuits et 11 jours pour passer à travers les villes. 340 tonnes. Le rocher fait 340 tonnes, c'est le rocher dont il rêvait. Donc il a réussi à le déplacer. Dreiser déplace les montagnes, on peut dire. C'est un rêve, mais il a réussi à le faire. Et il a imaginé donc dès 69, et en le faisant venir de Jurupa Valley, dans le comté de Riverside, en Californie, jusqu'au lac Ma. C'est vraiment le matériau qui est important pour lui. Il dit, par exemple, je cite, « Je réalise qu'il y a un potentiel expressif dans les matériaux, mais je suis plus intéressé par leurs caractéristiques structurelles que par leur beauté. Je pense que la terre, ajoute Heiser, est le matériau qui a le plus de potentialité parce qu'il est la source première de tout matériau. » Ou encore, il dira, c'est des citations que je vous donne, mais pour, ça vous donne l'esprit de cet artiste, de ce qu'il fait. « Je pense que la simple masse est la chose la plus intéressante dans la sculpture. » Alors voilà l'extrait. Alors, la musique est un peu, enfin, vous verrez, un peu fancy, mais bon. Ah, il y a du son ? Non, peut-être pas. On peut avoir du son ?
On peut avoir du son, mais à la condition
que ça soit branché.
Le fichier son dans votre ordinateur.
J'ai le son, moi.
Ah oui.
Comment ? Alors, je sais pas, vous l'entendrez, mon ordinateur peut-être. Bon, de toute façon, ce n'est pas un son inoubliable, mais c'est un son curieux, vous verrez, enfin, un peu bizarre. Mais là, je... On entend de là, mais. Bon, alors, il y a chez Heiser aussi l'idée d'intégrer ces formes de nature brute dans la ville. Il en a fait plusieurs à New York. Enfin, on a l'impression que c'est comme s'il faisait ressortir la tectonique des sols de la ville pour montrer ses rochers dans des galeries, par exemple, qu'il a à Manhattan, où il avait exposé des blocs complets. Alors, pour finir avec cette partie, qui va être un peu plus longue, je crains, qu'à la seconde, mais... Je voulais simplement dire aussi que ce n'est pas essentiellement un art du paysage, contrairement à ce qu'on peut dire du land art, souvent. Le paysage compte pour un certain nombre de ses réalisations, mais pas forcément essentiellement. Alors, on peut faire une sorte il y a toute une gamme comme ça de réalisations. Certaines sont vraiment liées au paysage, comme le Lightning Field de Walter de Maria, qui est en fait un champ de paratonnerre, de 400 poteaux, de 1 miles sur 1 kilomètre. Donc il y a le brouillage des distances. Desmaillot a toujours travaillé comme ça avec donc, des mesures qui sont calculées à partir du corps humain et d'autres qui sont calculées à partir du rayon de la Terre. Ça l'intéresse beaucoup et de jouer avec ces types de mensurations. Et il a donc réalisé ce Lightning Field. Il y en a une petite version, c'est parce qu'en 73, 77, c'est la grande. Et ils sont donc 400 séparés par 25 mètres, composés d'une sorte de grille, qui sont des capteurs de foudre, en fait, qui sont censés capter la foudre. Ils sont, si vous posiez une feuille de papier dessus, elle serait parfaitement horizontale. Le sol, lui, ne l'est pas complètement, mais donc ça veut dire que ces poteaux, ils ont autour de 5,60 m, 5,75 m, 5 mètres... mais le haut, la pointe, est exactement parfaitement horizontale. Et quand vous allez voir cette œuvre, par exemple, on vous laisse là, dans une cabine, un log cabine, on vous y amène vers midi et on vient vous rechercher le lendemain, vous passez 24 heures. Vous ne pouvez pas en sortir comme ça, vous avez la subsistance, enfin, vous pouvez manger, boire, bien sûr, il y a un repas froid qui est prévu. Et l'idée, c'est de faire, je vous dis ça parce que l'idée, c'est l'expérience de la durée essentiellement. C'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes au milieu de ces poteaux, enfin de ces paratonnerres, vous marchez d'abord, vous en faites l'expérience physique, donc sa taille, etc. Et puis en fait, au bout d'un moment, bon, vous retournez sous la véranda, vous observez, et vous êtes dans un moment de contemplatif. En fait, c'est une œuvre très contemplative, où vous êtes censé attendre la foudre qui va tomber dessus. Mais la foudre, je n'ai pas dit qu'elle vienne. Généralement, elle ne vient pas, d'ailleurs. La plupart des gens que je connais qui sont allés là-bas n'ont jamais vu la foudre tomber dessus. Mais vous attendez... En étirant ce temps, dans un temps qui est réellement le temps très caractéristique en fait de ces œuvres postmodernes, comme on peut dire, c'est-à-dire l'expérience du temps, l'expérience de la temporalité, qui va tout à fait à l'encontre de la façon dont quelqu'un comme Greenberg, le théoricien du modernisme, considérait lui l'œuvre comme devant être saisie dans un instant, dans sa totalité, qui est en fait ce moment-là. Qui est l'acmé de l'œuvre, le moment où, à la verticale, la foudre tombe et vous êtes saisi par sa manifestation ultime, en quelque sorte. Mais il y a, en quelque sorte, deux temporalités. Il y a la temporalité de l'attente, la temporalité de la durée, la temporalité qui est très caractéristique de cette époque où on vous demande de faire l'expérience de ces œuvres lentement, expérience qui est maintenant aujourd'hui, voilà, auquel on est beaucoup plus habitué aujourd'hui, mais qui est très nouvelle à ce moment-là. Et puis, il y a, tout d'un coup, ce moment-là, ce moment où elle se marque d'une évidence totale, qui est donc l'articulation de cette horizontalité, de cette verticalité, qui est très caractéristique chez Desmaillot, qui est en même temps une exaltation du paysage, une façon d'exalter le paysage. Alors, on a pu parler des catégories du sublime, on peut utiliser beaucoup de ces catégories. Je ne suis pas sûr qu'elles marchent très bien, enfin, ça dépend quel sublime, il faut regarder ça de près, mais enfin, en effet, on peut parler de sublime en partie. Alors, d'un côté, vous avez Desmaillot, de l'autre, vous avez quelqu'un comme Richard Long, qui est un artiste anglais dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était dans une des premières expositions, dans l'exposition Earth, qui, lui, est un marcheur qui a, je vous ai montré la ligne de Nazca, il marche dans le paysage et il produit des lignes, enfin, il lève des lignes qu'il met généralement, vous le voyez dans ses photographies, dans l'axe, pour leur donner une sorte de... pour en souligner par la perspective. Et donc, il organise le paysage de façon extrêmement classique, en fait, à chaque fois. Mais ce qui est important, et on le voit ici, c'est que ces œuvres ne sont pas que des photographies ou que des sculptures. C'est un mixte, en fait, puisque Pierre, il va les remettre en place une fois qu'il aura pris la photographie. Ces photographies ne sont que le témoignage de quelque chose qu'il a réalisé dans le paysage et qui doit d'ailleurs toujours s'accompagner, vous le voyez, par de la légende « A Line in Japan, Mount Fuji, 1978 », sans quoi vous n'avez pas l'œuvre. Si vous montrez cette photographie sans la légende, le dispositif est perdu. Long n'est pas un photographe. Donc, c'est l'ensemble qui fait l'œuvre et c'est en quelque sorte le témoignage de la démarche d'un artiste qui est sa marche. Ce que fait Long, c'est marcher. Son art, c'est la marche. Et puis tout ça, c'est ce qui nous donne en pâture, en quelque sorte. On le voit ici, par exemple, avec Stone and Wells. Alors voilà une mauvaise façon de le présenter, puisqu'il n'y a pas... j'ai mis Stone and Wells, mais en fait, la photo est coupée, il n'y a pas en dessous le protocole qui vous permet de donner toutes les caractéristiques de l'œuvre. Donc ça, bon, j'ai mis Stone as well, mais normalement je ne devrais pas le montrer comme ça. Donc, c'est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Et puis enfin, je vous montre simplement cette image-là qui est aussi d'ailleurs malheureusement, parce que je l'ai scannée, elle est un peu amputée et il aurait fallu que... ah oui, d'ailleurs, j'ai changé de PowerPoint, j'ai l'impression, mais d'abord, la spécification est plus longue, elle est en dessous. Et alors, ce qui m'intéresse là, parce que Long a beaucoup travaillé sur les cartes, c'est le rapport de la géographie à la géométrie, en quelque sorte, puisque vous avez un cercle qui est celui le long duquel il va marcher, enfin, suivant lequel il va marcher dans le paysage, et qui, chaque fois qu'il rencontre de l'eau, se transforme en géographie. Chaque fois qu'il rencontre de l'eau, on a le détour de la rivière, par exemple, ou bien du lac, etc. Donc on a une sorte de superposition de deux plans ou de deux imaginaires, hein, la représentation cartographique, qui est censée nous restituer quelque chose du territoire, mais qui est ici géométrie, enfin la marche est géométrisée complètement, alors c'est complètement abstrait, et puis tout d'un coup on tombe sur quelque chose d'apparemment concret, ou qui pourrait être concret, qui est le mouvement des rivières. Donc il y a cette espèce de jeu, alors, il faudrait les examiner en détail, les cartes de Richard Long sont passionnantes pour ça, parce qu'elles sont toutes très différentes, elles ont toutes des dispositifs très différents. Ah ben là, voilà, excuse-moi, je vais... donc là, j'ai essayé de me rattraper un peu, parce que normalement, ça, c'est en dessous. Voilà, là, c'est le titre complet. Alors, on a Richard Long, qui est quelqu'un qui manifeste le paysage, pour qui le paysage est central. Hein, c'est quelqu'un qui est... Donc là, pour le coup, on peut dire que c'est un art du paysage, en effet. Ou bien Nancy Holt, qui réalisera les Sun Tunnels, qui est la veuve de Smithson, qui vient de mourir il y a peu de temps, et qui donc a réalisé, après la mort de Smithson, des œuvres assez significatives, dont ces Sun Tunnels qui sont les plus fameux, accompagnés d'un film un peu à la manière de Smithson, et qui sont en fait des sortes d'énormes buses qui sont percées de trous, qui retracent en fait un certain nombre de constellations. Alors, elles sont orientées suivant le lever et le coucher du soleil. On peut s'y tenir debout, elles sont des abris en même temps, et on voit qu'il y a une sorte d'inversion du jour et de la nuit avec les constellations qui se réfléchissent à l'intérieur. Un autre artiste, ou deux autres artistes, parce qu'ils sont associés, qui ne sont pas exactement des artistes du Land Art, mais que je vous montre quand même parce qu'ils contribuent à leur visibilité. La terre n'est pas leur matériau essentiel, ce sont des artistes qui se veulent environnementalistes, mais qui sont exactement contemporains, et il est intéressant pour notre propos d'en parler quand même, mais ils ne sont pas vraiment des artistes du Land Art, c'est les cristaux. Alors, Jeanne-Claude et Christot, il faut toujours dire Christot et Jeanne-Claude parce qu'elle a participé à toutes ses œuvres et ils ont rétrospectivement rebaptisé toutes les œuvres il y a de ça, je crois, 8 ans, dans la mesure où elle participait à ses projets et que, de ce point de vue-là, elle était, comme lui, aussi bien partie prenante. Alors, les dessins, c'est lui, mais toutes les œuvres réalisées comme ça, qui ont mis beaucoup de temps, il y a toujours deux dates, 72-74 par exemple, ce sont des œuvres qu'elle a signées aussi. Et là, c'est une œuvre que je trouve magnifique parce qu'elle reprend cette façon qu'on a au XVIIe siècle d'envisager le paysage comme théâtre. Je vous renvoie au très beau texte de John Brinker of Jackson de la nécessité des ruines qui s'appelle Le paysage comme théâtre, où il montre que la métaphore du théâtre est dominante au XVIIe pour penser non seulement le paysage, mais le savoir aussi, hein, le théâtre du savoir. Mais donc, il y a quelque chose là que je trouve comme un rideau de scène, hein, sur la vallée qui s'ouvre. On voit aussi, par exemple, le Running Fence, qui est une façon aussi de surligner le paysage, un paysage à Napa Valley, qui est un paysage écrasé par le soleil en général, et quand on le voit avec le Running Fence, on a les horizons intérieurs qui sont soulignés ou surlignés grâce à cette espèce de gigantesque pinceau qui passe sur 40 km, c'est-à-dire la longueur en fait de la Grande Muraille de Chine. L'autre façon de regarder le paysage, ce sont les observatoires, tels que Maurice a pu en réaliser pour l'exposition Sundsbeek en Hollande. Cet observatoire est désormais visible. Il a été détruit une première fois après l'exposition, mais la photo de 2013 témoigne de la place du second, qui donc est un observatoire à deux ronds, deux cercles, si vous voulez. L'un fait environ 95 mètres de diamètre, l'autre 45, j'aurais dû prendre la mesure exacte, et c'est un jeu d'intériorité et d'extériorité, l'observatoire étant orienté lui aussi par rapport au lever et au coucher du soleil. C'est une constante de ces observatoires, hein. Ils sont liés. Alors, ce qui est intéressant dans celui-là, c'est qu'en fait, il est sur un plat pays, comme vous savez, tout est complètement plat, et donc c'est quelque chose qui est on a l'impression que c'est une sorte de colonne verticale à boucher au ciel, en quelque sorte. Il y a une verticalité imaginaire, in abstentia, qui donne à une grande puissance à cet observatoire, qui est d'ailleurs le lieu de réunions, de fêtes au solstice, toujours aujourd'hui. Et je vous montre enfin comme une œuvre qui n'est pas non plus exactement une œuvre du Land Art, mais c'est l'œuvre de James Turrell, le Rodin Crater, qui est un cratère qu'il a acheté aux États-Unis en 1977 dans l'Arizona, en survolant la région, sur le Painted Desert. Donc c'est, c'est un endroit absolument extraordinaire de perspective sur le paysage. Et en fait, c'est un dispositif, puisque là, c'est une photographie que j'avais faite en 91, mais ça ne ressemble plus du tout à ça, ça ressemble à ça. C'est-à-dire, ça a été creusé, le cratère a été effondré, des chambres ont été construites, et ces chambres sont là pour observer, en réalité, le mouvement du soleil, des étoiles, de la lune, suivant des dispositifs très complexes, qui, moi, me rendent un peu dubitatif, en vérité, parce que, ayant fait l'expérience de ces cratères tels quels, je me demande ce que ça peut valoir ensuite avec des cartes de touristes qui viennent. Enfin, je ne sais pas trop. J'aimerais voir ça, mais je suis un peu perplexe, parce que je pense que le rapport de ces œuvres au paysage, justement, à la nature très sauvage dans laquelle ils sont, fait partie, en réalité, de la beauté de ces œuvres. Enfin, le dernier, c'est le complexe de Heiser, le complexe, en fait, on appelle ça City maintenant, il l'appelle City, c'est une cité qu'il a réalisée dans le Nevada, et là, pour le coup, c'est pas du tout un art du paysage. Heiser se défend absolument de s'intéresser au paysage, il dit, moi, au contraire, là, à l'époque où il réalise Complex One, le terrain est plat. C'est d'ailleurs une œuvre qui est en référence, qui est faite en référence au mastaba égyptien, mais aussi... à la pyramide de Chichen Itza, puisque le grand T que vous avez percevé vaguement là au centre, c'est en fait une stylisation du serpent qui tourne autour de la pyramide, l'œuvre étant anamorphique. Si vous la mettez, si vous situez d'un certain point de vue, vous la voyez totalement horizontale, toutes les bandes sont alignées, mais si vous vous décalez légèrement comme là, vous comprenez qu'elles ne sont pas toutes au même niveau. Vous en avez ici une perspective d'avion, où vous voyez beaucoup mieux. Donc le T qui ensaillit, le grand L, vous voyez que toutes les parties sont sur des plans différents, mais vous pouvez, selon que vous intégrez l'intérieur, les voir autrement. Et Heiser a creusé en fait une sorte de piazzale en dessous, de piazza, à 5 mètres de profondeur, pour isoler ses œuvres, pour qu'en en fait on soit dans une sorte de musée à ciel ouvert et pour qu'on ne voit pas le paysage. Donc il se défend absolument que ce sont... Enfin, il dit que ce n'est pas du tout des œuvres pour voir le paysage, c'est des œuvres qui se protègent du paysage, au contraire. Pour moi, en tout cas, je pense qu'en réalité, ce sont des œuvres qui intègrent le paysage, si peu que ce soit, parce que quand vous devez, pour aller là-bas, on ne peut pas y aller, en fait. J'ai eu cette chambre, mais on ne peut pas y aller parce que c'est interdit, c'est fermé. Mais pour y aller, vous devez traverser les déserts, vous devez traverser les canyons. Vous êtes dans un rapport au paysage qui est un rapport d'intériorisation, un peu comme quand vous alliez voir les panoramas autrefois, vous deviez passer par une zone d'obscurité. Là, vous passez à travers des paysages extrêmement puissants, en fait, des paysages qui vous marquent. Et quand vous êtes là, vous les avez en quelque sorte en arrière de la tête. Donc, vous ne les voyez pas, c'est vrai, vous ne voyez pas le paysage, mais vous avez fait l'expérience de ce paysage que vous avez traversé jusque-là. C'est pour ça que je pense que ce sont aussi des œuvres qui ont un rapport au paysage. Là, c'est une photo donc de l'intérieur, puisque en fait maintenant il y a, comme vous l'avez vu sur la vue précédente, il y en a trois parties. Désormais, ça a l'air tout petit à côté des trois autres. Et sur le bord ici, au bout, alors voilà la deuxième partie que vous voyez là, qui est terminée, hein, qui fait donc 331 mètres de long. Et au bord, de l'autre côté du chemin, donc, il y a cette partie qui est très géométrique, qui travaille sur des angulations particulières qui sont propres à Heiser, qu'il faudrait regarder en détail. L'ensemble vu de satellite, donc je vous parlais de la vue de satellite, c'est quand même impressionnant, ressemblant à ceci, hein, puisqu'il y a ce chemin qui traverse, et Heiser habite juste à côté, c'est son ranch en fait. Il vit sur son œuvre, en quelque sorte, il vit là. Et ce chemin coupe l'œuvre en deux. Hein. Il y a la partie que je vous ai montrée, et puis la petite partie ici, là, ce sont les sculptures. Hein. Tout ça est en train de se terminer, sera peut-être pas terminé, peut-être jamais. C'est l'œuvre de sa vie. Heiser a décidé que ça serait comme ça, qu'il passerait sa vie entière à ça. Alors, maintenant, je vais passer donc à... je savais évidemment que je serais plus long sur cette partie, j'en suis un peu désolé, mais c'est quand même... Déjà, j'ai essayé de résumer tout ça très vite, mais en fait, même si on peut parler d'un héritage du Land Art dans les productions de l'art dans la nature aujourd'hui, il n'y a pas grand sens, à mon avis, à utiliser ce terme pour parler de production de jeunes artistes ou d'artistes même moins jeunes qui ne font pas partie de cette histoire et qui viennent d'horizons différents, qui ont un rapport à la nature et au paysage eux-mêmes différents. Et il me semble qu'on a tout à gagner à trouver d'autres termes ou à parler simplement, si on veut, d'art dans la nature, mais pas de land art. Le terme de land art dans son extension aujourd'hui, pour moi, n'a pas de sens. C'est un terme que j'utilise de façon très spécifique pour ces œuvres-là, en gros de 68 à 73. Au-delà de ça, on est dans une autre histoire. Alors, on voit de plus en plus se développer un intérêt pour les processus naturels. On peut citer donc en France quelqu'un comme Michel Blasi, né en 68, qui compose un guide des mauvaises herbes, qui fait croître en intérieur, par exemple, des végétaux sur des surfaces sans profondeur. Vous avez pu voir des expositions de lui à Paris, au Palais de Tokyo, par exemple. Ou bien quelqu'un comme Jan Kopp, qui est un artiste qui est né en 72, qui a une exposition en ce moment, et qui, alors qu'il était encore étudiant aux Beaux-Arts de Paris, a planté 28 millions de graines de coquelicots sur la butte d'un terrain vague, tout près du centre de Ivry-sur-Seine, bordé par des immeubles et une voie ferrée. C'est une œuvre éphémère qu'il avait réussi à... Alors, planter des coquelicots, ce n'est pas évident. Il a réussi, ça a donné... Alors, je m'excuse pour l'image qui n'est pas très bonne, qui est une œuvre qui n'a pas duré, mais qui a marqué en tout cas les esprits. On peut penser aussi dans le même genre d'idée à Jean-Paul Ganem, qui a réalisé le jardin des capteurs sur une décharge de 100 hectares à Montréal, au Canada, le dessin reprenant la forme des capteurs de biogaz qui sont chargés de la récolte de méthane émis par les déchets en fait, où se trouve ce jardin des capteurs. L'aspect conceptuel de certaines des œuvres des années 60 qui jouent avec la représentation du territoire, elle sera différemment prolongée dans des productions contemporaines où la cartographie est très présente. Par exemple, en Italie, les stalkers, qui sont apparus au milieu des 90, qui sont essentiellement en fait des architectes, mais pas seulement, c'est un groupe informel d'anciens architectes et d'artistes, qui sont intéressés aux interstices de la ville, en particulier qui ont commencé avec Rome, en produisant une carte qui donne à la ville une forme d'archipel, puisqu'ils sont passés en fait par tous les interstices, les lieux interdits, et ils ont cartographié en fait l'ensemble comme si la ville en dur, la ville officielle en quelque sorte, la ville devenait un archipel qui flottait sur tout cet ensemble par lequel on pouvait auquel on pouvait accéder de façon oblique en quelque sorte. Bon, on sait qu'à Rome il y a beaucoup de surfaces qui sont prises par les monuments, qui sont de territoires qui sont occupés par les monuments, et donc ils ont tenu compte de tout cela pour faire cette carte. Ou alors on peut penser aussi à des interventions. Alors ils s'intéressent à ces interstices, à ces vides, qui est ces friches aussi, qui est quelque chose qu'aujourd'hui on regarde beaucoup, qu'on ne regardait pas il y a 40 ans, mais quelqu'un comme Gilles Clément a pu attirer d'ailleurs l'attention là-dessus. Il est parmi ceux qui ont beaucoup attiré l'attention là-dessus, mais des artistes comme Smithson ou comme d'autres, Smithson dont les stalkers se réclament, sont parmi les premiers à s'être intéressés à ces espaces-là. Ou alors une artiste comme Lara Al-Marseghi, qui a inventorié ce genre de lieux dans différents pays, comme en Hollande. Donc c'est une artiste née en 72, où elle a fait en 99 un guide des sites vides à Amsterdam, ou des bâtiments en ruines de Hollande en 2008. Sa principale idée étant de laisser en l'état ces interstices où la nature se développe à sa façon et où ces espaces restent sans fonction déterminée, à l'abri des aménagements urbains. Alors, si on peut globalement faire émerger un certain nombre de pistes des années 60, on doit peut-être aussi considérer l'apparition d'autres formes dans la nature qui sont en rupture avec cette époque. Alors, certains artistes aujourd'hui entretiennent une relation beaucoup plus intime à la nature, considéré sous ses aspects les plus éphémères, suivant des processus de pensée qui sont parfois assez proches de l'Orient, et souvent dans le prolongement d'un certain romantisme. Alors, Andy Goldworthy, c'est un des plus connus, on l'associe souvent à l'Orient, je me refuse à l'associer à ça, c'est quelqu'un qui fait autre chose. Peut-être qu'on peut l'appeler pour une part à quelqu'un qui fait de l'art végétal, mais pas seulement, il fait d'autres choses. Andy Goldworthy a réalisé donc des œuvres fragiles à l'aide de matériaux naturels, éphémères, dont évidemment la photographie nous restitue la réalité et, dans un instantané, puisqu'elles vont très rapidement disparaître. Et son travail, en fait, à travers sa façon d'assembler des feuilles au moyen de sortes de petites agrafes naturelles, de les faire parfois dériver au fil du courant comme des serpents d'eau, de les transplanter dans des lieux auxquels ils n'appartiennent pas. Son travail donc met en évidence les richesses formelles, chromatiques de la nature. Alors, on peut penser aussi à d'autres, et on peut considérer que Goldworthy appartient au fond à une famille d'artistes qui pratiquent ce qu'on pourrait appeler, je le dis, l'art végétal. Mais pas seulement, une partie de sa production pourrait être appelée de l'art végétal, dont l'allemand Niels Suddo et le belge Bob Verschuren pourraient faire partie. Bob Verschuren qui intervient en fait beaucoup plus en intérieur qu'en extérieur. Il a fait aussi des opérations d'extérieur, mais il intervient beaucoup plus en intérieur, dans des espaces intérieurs. Ce serait, au fond, d'une certaine manière, pour faire simple, les représentants les plus connus, mais il y en a bien d'autres. Ils s'inscrivent, en tout cas, pour une part, dans une tradition anglaise de sculpteurs qui ont travaillé à Grisdale Forest dans les années 80, à la suite de David Nash, et qui compte également, par exemple, on peut en citer d'autres, mais Richard Harris, qui est beaucoup moins connu, qui a travaillé pas mal en Australie, en effet, mais dans d'autres endroits. Et ces artistes, en fait, on pourrait dire, sur toute la gamme du végétal, depuis le tronc jusqu'aux feuilles. Mais des racines aux feuilles, en passant par les branches, on va aller donc d'un art de sculpteur, comme Nash, qui reste encore dans la logique de l'objet, à un art du presque rien, dont le support devient essentiellement photographique, quand même. En même temps, ces artistes se refusent à réduire leur travail à la photographie. La photographie est un moyen, la plupart du temps, pour y accéder. Niels Suddo, par exemple, disait déjà, il y a plus de 20 ans, je le cite, « Il est évident que la photographie ne donnera jamais qu'une idée approximative de l'espace nature tridimensionnel. Le propre de mon travail n'est ni ce que je construis dans la nature, mon intervention n'étant qu'un véhicule, ni la photographie. C'est une tentative d'activer la nature même, par des interventions infimes et de la mettre ainsi sous tension de telle façon que l'espace nature devienne un espace art. » Donc, la nature, au fond, elle devient d'une certaine manière aussi une sorte, en renouant avec une vision très ancienne, un réseau de signes à déchiffrer, un ensemble de signatures, en quelque sorte, à décrypter. C'est ce qu'on voit avec une œuvre comme First Gate Ritual Series, qui est emblématique des œuvres de Michael Singer, qui en a réalisé tout un ensemble, qui sont des structures en bambou, en branchage, et qui sont un peu comme des phasmes. Il faut s'approcher pour les comprendre, pour en détailler la forme. Il y a une sorte de confusion et en même temps, ça nécessite que l'œil s'accommode, comprenne ce qu'il est en train de regarder. Alors, ça, c'est, disons, un premier degré, un premier niveau. À un deuxième niveau, on trouve des pratiques qui seraient plus incarnées, plus liées à des registres de perception individuelle qui vont mettre en rapport le corps avec certains types d'espaces construits. C'est ce que Maurice, dans le texte que j'ai évoqué tout à l'heure, A Line with Nazca, qui est un texte très riche et assez complexe, où il ne parle pas que des lignes de Nazca, ce que Maurice va appeler un art de l'espace du self, hein, reprenant encore toujours ce terme à Hamid, soit, disons, un art environnemental, mais qui serait centré davantage sur des phénomènes psychologiques. Alors, il montre dans l'article d'origine diverses œuvres, dont cette œuvre de Mary Miss, Sunken Pool. Alors voilà, je cite Maurice, ce qu'il dit de ce type d'œuvres qui viennent après les artistes du Landa, c'est une génération après que connaît Maurice à l'époque et qui soutient, puisqu'il écrit ce texte en 76, donc c'est un peu plus tard. L'art en question, dit-il, a substitué au solipsisme, voire à l'autisme, bon, viser évidemment les œuvres du Land Art dont je vous ai montré, les premières œuvres, les proto, les premières œuvres de Heiser ou d'autres, parce que Maurice se désolidarise à ce moment-là. Donc, l'art en question a substitué au solipsisme, voire à l'autisme, la construction soit d'un paysage psychologique, soit d'un paysage concret destiné à contenir le self. Entre dans cette dernière catégorie un certain nombre d'œuvres réalisées en plein air. Exécutées sur une échelle généralement intimiste, ajoute-t-il, elles utilisent de petits espaces clos qui, pour n'être pas artisanaux, représentent cependant un investissement financier moindre que les premiers earthworks monumentaux de type minimaliste. Donc, et lui, évidemment, va plutôt dans le sens. Donc, à ce type, par exemple, correspondent des objets architecturaux qui entretiennent donc un rapport d'intimité, d'intériorisation, comme on le voit dans les œuvres de Alice Aycock. Ça, c'est une de ses premières œuvres, qui traduisent une appréhension très primitive des lieux, hein, des lieux comme des cachettes, des souterrains, des couloirs dérobés dans les châteaux, je veux dire. Il y a cet imaginaire-là chez Alice Aycock. Hein, c'est que, par exemple, le thème de Simple Network of Underground Wells and Tunnels, qui est constitué de 6 puits d'environ 2 mètres de profondeur, creusés dans le sol, et reliés les uns aux autres par des tunnels. Alors, on doit y descendre et ramper à l'intérieur, hein, pour faire l'expérience de l'œuvre. Alors, dans certains cas, ces architectures, elles sont transformées en cabanes ou en machines de vision. Alors, j'aurais long à dire sur les cabanes, mais je n'ai pas le temps de vous en parler plus longuement. Mais disons, quelqu'un comme Chris Drury, par exemple, qui est un artiste que vous avez pu voir en France l'année dernière, par exemple, à Jumièges, à la Biennale de Jumièges, il y avait une œuvre de lui qui était une sorte de grand tourbillon. Chris Drury a construit des abris comme des sculptures, mais qui sont en même temps des lieux d'expérience d'observation. Donc, il pratique un trou, comme vous le voyez ici. Alors, là, c'est un trou latéral qui est avec un miroir qui réfléchit donc l'eau et qui se comme une caméra obscura et qui se reflète à l'intérieur. Le sol est blanc et donc l'image de l'eau est reflétée et on a le mouvement qui dans l'immobilité où on se trouve à l'intérieur de cette sorte de chambre, mais il y a d'autres types d'œuvres avec les nuages qui sont saisis et donc reflétés à l'intérieur, et si bien que le corps au repos, en quelque sorte plongé dans l'obscurité, chacun qui en fait l'expérience prend d'une certaine manière conscience de la fragilité, du caractère éphémère des choses, en observant à ses pieds le passage des nuages, le mouvement des branches, le paysage extérieur, en off, en quelque sorte. Alors, le thème de la cabane, évidemment, il va fédérer beaucoup de productions contemporaines de la nature. Moi, je m'étais aperçu en travaillant sur d'autres œuvres que les œuvres du Land Art, et c'est comme ça que ça m'est venu, il y a une quinzaine d'années, de réfléchir davantage aux cabanes. Et il y a beaucoup à dire là-dessus, je n'aurai pas le temps de le faire, mais c'est aucune de ces œuvres n'étant véritablement des cabanes sans joue, je pourrais l'entendre, mais tout étant lié, si peu que ce soit, de près ou de loin, à ce thème de la cabane qui renoue avec l'enfance de l'homme et l'enfance de l'humanité, hein, on le sait, et qui est à l'origine des grandes spéculations sur la civilisation, l'architecture, vous êtes mieux placé que moi pour le dire, la cabane étant non pas une petite maison, comme le dit l'étymologie, mais probablement quelque chose de très différent. Pour moi, d'ailleurs, en fait, en un mot, elle a très peu à voir avec l'architecture, parce qu'elle brouille les rapports entre l'intérieur et l'extérieur, parce qu'elle ne connaît pas véritablement de seuil, parce qu'elle est en fait tout entière en dehors, un dehors et qui est dans un mouvement de réversion par rapport à l'intériorité. L'expérience de la cabane, c'est en fait probablement une expérience de la nature. Une façon d'être non pas à l'abri du monde, mais hors de soi. Elle est aussi, je dirais, un mode d'entrelacement de l'homme à son environnement à partir de son habitat, dont on a associé la forme originelle et mythique aux cathédrales. Je vous montre cette œuvre de Giuliano Mauri qui est magnifique. Alors, cette idée d'entrelacement, je l'ai retrouvée chez quelqu'un comme Tim Ingold dans son texte sur dont on parlait tout à l'heure, dans son texte sur la Hutte-Ronde. Il y a un très beau texte dans Marcher avec les dragons, qui s'appelle je sais plus le titre exact, mais ça s'appelle en tout cas la Hutte-Ronde, et où il réfléchit à l'entrelacement de la cabane et du paysage. Cette idée me semble assez forte. Hein. Et Donc, on retrouve aussi cette idée de cathédrale, mais aussi de temple fondateur, temple cabane fondateur des civilisations. L'idée de dôme ou de duomo étant associée à cela, il faudrait développer plus longuement, mais je le dis en passant. Cette œuvre de Nash étant très belle, c'est donc une œuvre qui continue à être entretenue. Là, c'est une photo qui remonte à 13 ans. J'avais un film que j'aurais pu vous montrer. On voit désormais comment est devenu ce dôme, donc qui a été planté et qui pousse, comme le dessin que vous voyez à côté. David Nash, donc. Qui a réalisé ce cercle de 22 jeunes frênes sur le périmètre d'un cercle de 9 mètres de diamètre dans le nord du Pays de Galles, déclarant ceci, une maxime bouddhique dit qu'il est préférable de collaborer avec la nature que de chercher à la dominer. Hein, quelque chose qui irait tout à fait dans le sens de quelqu'un comme Gilles Clément, faire avec. Hein, faire avec. Donc c'est une vision assez différente au fond de rapport à la nature que ce que l'on a vu au tout début. Alors, ces artistes, en effet, tout ça m'amène à un troisième degré, un troisième niveau, où est mis en scène la présence absente d'un sujet qui serait limité d'une certaine façon à son énonciation et dont l'œuvre devient la trace. Ce type, il est représenté probablement le mieux pour moi par Hamish Fulton. Hamish Fulton, toujours actif aujourd'hui. J'aime beaucoup montrer cette image parce que Fulton a toujours voulu n'être rien, ni photographe, ni designer, ni poète, ni sculpteur. Il est quelque chose entre tout ça et il n'est sûrement pas, dit-il, un artiste du Land Art. Donc il montre cette image que je pense drôle en même temps, mais caractéristique de son art, puisque Fulton, à la différence de Richard Long, ne déplace même rien. Long, il déplace des pierres, il fait des cercles. Fulton, sauf une fois ou deux, dans une ou deux des images, on voit un rond dans l'eau qui est produit par une pierre qui a été lancée. Mais c'est tout. C'est peut-être la seule intervention qu'il a pu faire dans le paysage. Du coup, les photos, les dessins, les lettrages sont un simple substitut, en quelque sorte, le dépôt gelé d'une activité qui trouve sa fin en elle-même. On a presque l'impression que l'objet est en trop. Ou qui vient de surcroît. Dans la même perspective, on pourrait dire alors que l'énergeia, la production, si vous voulez, supplante l'ergone, le produit. Cette distinction qui est romantique, est une distinction qu'on trouve chez Wilhelm von Humboldt, elle remonte évidemment à beaucoup plus loin, elle remonte au fond, d'une certaine façon, on pourrait dire aux Grecs. Et on pense aussi à la fameuse métaphore de l'archer chez les stoïciens, où l'idée, le but, le scopos, le but de l'archer, c'est bien la cible, mais la fin, le telos, c'est le tir. Et c'est bien ce qui se passe avec Fulton. Peu importe qu'il l'atteigne ou non, ce qui est important, c'est le mouvement. C'est exactement comme dans le livre de Hérigel, Zen dans l'art chevaleresque, le tir à l'arc. C'est tout est dans. Tout est dans l'attitude. Tout est dans l'attitude beaucoup plus que dans le résultat ou dans le produit. Tout est dans l'énergeia et pas vraiment dans l'ergone. Tout ça nous est donné parce qu'on est dans un monde qui est le monde de l'art. Quand on demande à Fulton pourquoi finalement il fait ça, il dit ouais, « je ne suis pas un moine, quoi, donc je fais quand même des œuvres, je vends des choses, mais c'est la limite. » Alors, pour finir, on peut évoquer l'intérêt porté à la nature, non pas tellement comme occasion d'une expérience de soi que pour elle-même. À partir d'une préoccupation écologique qui a pris une importance grandissante durant ces dernières décennies, et un certain nombre d'artistes ont travaillé dans ce domaine en essayant de formuler avec des moyens artistiques des problèmes qui sont, au fond, proprement politiques. Par exemple, la suite de Hans Hacke, qui réalise une sculpture de déchets, tout simplement, sur la plage de Carbonara, c'est un geste qu'il fait en Espagne, mais au début des années 70, à un moment où, encore une fois, je vous le disais, on est, on n'est pas sensibilisé encore comme aujourd'hui à ce qu'est la... On parle bien sûr d'écologie, mais pas du tout de la même façon. Et si les Américains s'y intéressent, d'ailleurs, c'est plutôt dans une tradition environnementaliste qui remonte à Emerson, Thoreau, mais qui n'est pas une préoccupation écologique au sens où on l'entend aujourd'hui, avec d'ailleurs ses représentations politiques. Qu'un artiste comme Beuys, par exemple, dans les années fin des années 70, mettra en scène comme œuvre, hein, la politique comme œuvre, l'écologie comme une forme d'œuvre politique. On trouvait déjà, par exemple, mais dans un tout autre registre, chez Alan Sunfist, une sorte de façon de revisiter la nature telle qu'elle aurait pu être par une sorte de postulation très contestable, évidemment, sur l'île de Manhattan avant l'arrivée des colons. Sunfist s'était beaucoup documenté pour comprendre, savoir quelles étaient les espèces qui poussaient là, et il a sanctuarisé en quelque sorte un rectangle, une sorte de square dans lequel il a planté des essences telles qu'elles auraient été là, enfin telles qu'il suppose qu'elles avaient pu pousser là à l'époque, et ce Time Landscape n'est que le premier d'ailleurs d'une série qu'il a réalisée ensuite ailleurs, donc il y a celui-là, mais il y en a d'autres qui est en très mauvais état. Si vous allez à New York, vous le verrez, il est pas du tout entretenu. C'est une œuvre qui, de ce point de vue-là, est un peu ratée, parce qu'il y a quand même tout le problème de l'entretien de ces œuvres. Quand on arrive là, c'est, les paysagistes connaissent ça bien, mais là, on est à la limite, en effet, d'un travail d'artiste et de paysagiste. Hein, heureusement qu'une femme que j'ai rencontrée dans ce quartier, qui est biologiste, vient prendre soin de ce jardin, parce que sinon, il tomberait complètement à l'abandon et serait totalement détruit. La ville de New York ne fait rien pour. Mais je vous le montre parce que c'est, en 65, une tentative de mettre l'accent sur quelque chose de la nature qui a disparu, qui est en train de disparaître, à travers cette espèce de récit, de cette fable originaire du paysage de New York. Il y a d'autres artistes qui ont travaillé de façon beaucoup plus liée à une écologie scientifique, entre guillemets. Ce sont des gens comme les Harrison, Helen Meyer et Newton Harrison, qui en fait sont actifs, eux, dès les années 60, mais commencent à réaliser des œuvres au début des années 70, comme ce cycle du lagon où ils ont étudié, enfin qui part d'une étude qu'ils font du Scylla serrata, qui est un crabe sri-lankais, qu'ils sont allés observer sur place. Et leur intérêt va bientôt s'élargir à toute la région. Et de ce travail va naître donc ce fameux cycle du lagon, qui a été montré à Paris, à l'exposition Villette Amazon en 99. Il y avait une exposition dans laquelle Jacques Lenart avait réuni des œuvres de paysagisme, mais aussi des œuvres de quelques artistes, dont Crashberg, et Lee Harrison avait montré pour la première fois en France, je crois, certaines de ses œuvres. Alors, il s'intéresse au paysage plus seulement comme objet esthétique, mais aussi comme un milieu biologique, comme lieu d'échanges économiques et sociaux, comme traces et catalyses historiques dont la formation et la configuration dépendent. Une étude financée par la province du sud de la Hollande a été commandée au Harrison pour réfléchir à l'avenir de ce qu'on appelle depuis les années 30 le cœur vert de la Hollande. Et les Harrison sont des gens qui aujourd'hui ont, je pense, 80, 82 ans, et qui interviennent d'ailleurs, je vous le dis parce que pour vous situer, parce que encore une fois, c'est des gens qui sont contemporains des années 60, hein, ils travaillent à ce moment-là, et ils sont en train de faire une étude sur le jardin des Halles. Bon. Donc, ils sont toujours très actifs. Alors, on a recommandé cette étude pour réfléchir à ce qu'on appelle le cœur vert de la Hollande. Cette région verdoyante est menacée par une démographie et une urbanisation croissante. Et on leur a demandé de réfléchir à quelque chose qui soit capable de donner une identité suggestive à ce qu'ils appellent le cœur vert. Et le projet qui en est résulté, c'est une forme de contribution artistique à l'aménagement paysager du centre de la Hollande, qui va tenir compte de paramètres économiques et culturels, tout en manifestant le souci de préserver la biodiversité de cette région. Et dans le livret de 95, qui accompagnait l'exposition de leurs propositions, avec des textes, des photos et des cartes, c'est comme ça qu'ils font. Généralement, ils exposent, ils font des expositions qui ont des grands panneaux qui montrent et qu'on lit, qu'on regarde, qu'on consulte, et qui sont aussi informatifs que visuels. Donc l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, hein, par exemple, c'est qu'un élément du cycle du lagon, c'est plusieurs salles. Hein. Bon, ça, c'est aussi un seul élément, bien sûr. Alors, on voit quelques photos, des cartes, mais ce sont des dispositifs. Et dans ce livret de 95 qui accompagne l'exposition, Léa Risson, sous le titre « Le mauvais gouvernement », montre le caractère nocif des planifications de certains aménageurs, et il propose sous le titre « Le bon gouvernement » de lier les villes qui ceinturent ce poumon vert par des parcs autour desquels pourraient se faire les constructions nécessaires. La référence à Lorenzetti est intéressante dans la mesure précisément où elle renvoie à une vision prémoderne du paysage, qui, quoi qu'en dise Kenneth Clark dans son livre sur le paysage, enfin de mon point de vue en tout cas, et même si le réalisme d'une telle représentation peut surprendre, ce qui fait penser à Clark que c'est un paysage désormais moderne, en fait, que l'on voit, plus un paysage symbolique, est en fait probablement plus connoté symboliquement qu'il n'y paraît. Hein. Mais évidemment, comme notre regard aujourd'hui ne sait plus le déchiffrer, nous nous plaçons pour l'appréhender d'abord et avant tout sur un plan esthétique. Mais un paysage, comme on sait, c'est aussi des histoires, des géographies, lisibles à bien des niveaux et qui n'ont pas d'évidence immédiate, et pour la compréhension desquelles le paysagiste, l'historien, l'artiste, l'anthropologue, le scientifique, à défaut d'allégorie, peuvent donner des clés. Alors, plus récemment, d'autres artistes sont intervenus très directement dans des processus de reconstitution des sites naturels, produisant ce qu'on pourrait appeler un effet de loupe sur une réalité économique et sociale qui nous pose de plus en plus de problèmes. Le Land Reclamation Art est né aux États-Unis dans les années 70, au début des années 70. Des lois ont été votées en 73 pour la réhabilitation des sites qui avaient été exploités par l'industrie, et on a commencé du coup à permettre, ou plutôt à favoriser même, des interventions d'artistes. Quand Smithson est mort en 73, la chose n'avait pas encore été votée, et lui, désespérément, les dernières années de sa vie, cherchait des mines, des sites industriels qui avaient été exploités de cette façon pour pouvoir produire des œuvres, et il a démarché beaucoup de ce point de vue-là à une époque où ça ne se faisait pas du tout. C'est après simplement que ça commence vraiment vers la fin des années 70 et qu'on appelle ça Land Reclamation Art. Il y a même des gens qui en ont fait une catégorie à part entière, la distinguant d'autres types, alors du Land Art bien sûr, mais d'autres types d'actions dans le paysage. Il y a une jeune femme, Adeline Lawson, qui a fait une thèse qui s'appelle Land Reclamation Art, dans laquelle elle inclut d'ailleurs dedans des œuvres comme celle de Nancy Holt, qui travaille sur un terrain, un landfill, une décharge, enfin qui travaillait sur cette décharge, ça n'a jamais abouti vraiment, mais en faisait une œuvre, comme ce que Jean-Paul Ganem peut faire et d'autres artistes de ce genre. Alors, Melchin, cet artiste américain d'origine chinoise, avec son Revival Field, a posé les bases d'une série d'autres œuvres de ce genre. Celle-ci avait été réalisée pour l'exposition internationale d'horticulture en Floride. Et il est intervenu sur des sites pollués pour faire pousser des plantes capables de se nourrir de produits toxiques, utilisant ce qu'on appelle la technique de la phytoremédiation. Donc c'est une dépollution par les plantes. Et en collaboration avec un chercheur, Rufus Chanet, du département américain d'agriculture, il, financé par le Walker Art Center, il a pu disposer d'un terrain de 300 acres contaminés par du cadmium échappé de piles usagées. Alors, 6 sortes de plantes qui ont des fonctions d'hyperaccumulateurs ont été sélectionnées, leurs racines absorbant les déchets polluants et nettoyant ainsi le sol. En fait, au départ, on voit cette forme particulière, forme de mandala, réalisé Melchin. Au départ, elles n'existaient pas, ces formes, parce que Melchin, quand il a proposé ses œuvres, personne n'a voulu les financer dans le monde de l'art. Il était allé voir la Mellonne et d'autres. Les gens disaient, c'est pas ce que c'est. Enfin, c'est pas de l'art, c'est quoi, c'est l'écologie, c'est pas pour nous. Quoi. Et donc, il a fallu qu'il donne un semblant de forme artistique, en quelque sorte, emprunté à ces mandalas, pour que, en fait, on accepte finalement de financer cette œuvre. Et en plus, il a rencontré Rufus Chanet, qui était donc ce scientifique qui travaillait très solitaire sur ces problèmes de phytoremédiation qui aujourd'hui sont très courants, mais qui à l'époque étaient peu connus. Et en collaborant avec lui, il lui a donné paradoxalement une grande visibilité dans son domaine. C'est-à-dire que tout d'un coup, les gens sont intéressés davantage par le biais de l'art ou de ce qui produit ainsi comme étant de l'art, ils sont intéressés à ces processus de phytoremédiation. Donc il y a une espèce de circuit entre l'art et la science, entre les opérations artistiques et scientifiques, qui est assez intéressant à observer, même si on peut considérer qu'ici, on est à la limite de l'art, évidemment. Est-ce que c'est encore de l'art, on pourra en discuter, mais en tout cas, c'est une, pour Melchin, ça ne fait pas de doute. Donc, que ce soit et je reprendrai ici, au fond, la conclusion de mon livre Land Art, à laquelle je n'ai pas tellement ajouté dans sa nouvelle édition. Que ce soit à travers donc une exploration sensible et une discipline de soi, ou bien de façon plus distanciée dans une mise en évidence de la Terre, comme écoumène, comme par habitable du monde, l'art, on peut dire, est largement devenu une attitude. C'est cette exposition de 69, « Quand les attitudes deviennent formes », exposition qui a un titre très significatif, hein, qui dit bien les changements qui se produisent à ce moment-là. L'art est largement devenu une attitude. On a pris une conscience grandissante des problèmes qui se posaient à notre planète, et ce n'est plus seulement comme dans les années 60, la société de consommation, la satisfaction des nantis, le pouvoir de quelques-uns dans les pays les plus riches qui vont être dénoncés. Les axes se sont déplacés et on sait que la planète tout entière est devenue le bien de chacun. Si donc le paysage intéresse tant certains artistes aujourd'hui, à la différence de ceux du Land Art, j'ai tenté de montrer que ce n'était pas central, même si ça existe, mais ce n'est pas absolument central, c'est plutôt la nature, les matériaux. Si le paysage intéresse tant certains artistes aujourd'hui, c'est parce que, je dirais, nous perdons progressivement la nature à mesure que nous nous en approchons. Et que le paysage représente un certain point de vue sur elle qui n'est pas seulement esthétique, mais aussi bien éthique et politique. Le paysage est devenu le lieu d'un discours, ou plutôt d'un échange de points de vue. Il est cet échange même. Il n'est pas un objet. Il est une médiation. Une médiation entre des termes, une trajection, dirait le géographe Augustin Berck. Et la beauté d'une œuvre comme de Richard Serra, comme de Shift, cette œuvre de Richard Serra, serait de nous le faire comprendre, puisque cette œuvre elle a été réalisée à partir de la marche. Alors, ce n'est pas une œuvre du Land Art, mais c'est une œuvre dans la nature. Elle a été réalisée à partir de la marche de deux personnes, Richard Serra et John Jonas, qui était sa compagne à l'époque, qui est une danseuse. Et l'œuvre qui disposé sur deux collines, avait pour limite la visibilité de chacun des deux personnes qui marchaient. Donc quand l'une cessait d'être visible, c'était le point où on devait s'arrêter. Donc elle est vraiment une œuvre interrelationnelle, en quelque sorte. Je trouve qu'elle illustre très bien cette idée de l'entre-deux du paysage, comme une sorte de dialogue constant. Donc, je disais, l'art est une modalité de ce dialogue et au-delà de sa valeur marchande, c'est, disons, d'une certaine manière, sa valeur symbolique d'échange qui nous occupe. Et dans ce contexte, on pourrait peut-être dire alors que la nature est devenue, c'est comme ça que je l'ai baptisé, mais disons le hors-champ de l'art. Ce qui intéresse l'artiste aujourd'hui, c'est le plus souvent ce que nous ne voyons pas. La nature est une puissance de transformation dont nous ne saisissons que des états, des moments arrêtés. Et si l'on est bien loin, à certains égards, des premières œuvres du Land Art, construites dans les déserts ou les carrières abandonnées, on peut aussi dire, d'un certain point de vue, qu'une part de leur esprit demeure. Ainsi trouve-t-on chez Michael Heiser cette idée qu'un énorme rocher déplacé, comme ce que je vous ai montré, emporte avec lui quelque chose de son lieu d'origine. Il y a comme une charge invisible qui transite d'un lieu dans un autre. Cette dimension, c'est aussi celle qui est pointée à travers la distinction « sight on sight » de Robert Sisson, dont je vous ai parlé, hein, la vision, non-vision, ou qui est affirmée par Walter de Maria, l'auteur du Lightning Field, dans son texte de 1980 sur cette œuvre, où il écrit notamment que l'invisible est réel. C'est elle, en tout cas, qu'on trouve revendiquée de plus en plus dans la pratique de certains artistes contemporains qui travaillent dans et avec la nature. Voilà.
Merci.
Merci de nous avoir donné ce panorama extrêmement riche sur... alors, on ne peut plus parler de Land Art, parce qu'effectivement, les 20 dernières années ont marqué une inflexion évidente. Pour nous qui n'étions pas nécessairement au courant de toute la richesse de ce que l'on entend ordinairement par Land Art. Moi, une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est alors dans la première phase du Land Art classique, c'est à quel point, au fond, c'était une prolongation, un prolongement du geste artistique. Bon, l'image classique de Pollock en train de faire ses drippings, etc., c'est-à-dire on se sert du land, de la terre, en effet, comme d'une surface d'inscription, comme d'une toile, et on trace des signes sur cette toile. Mais ce qui est frappant dans ce geste, alors qu'il est dans le prolongement du geste de l'artiste, c'est la question de la visibilité. C'est-à-dire, au fond, la différence entre sight et non-sight, c'est une différence entre ce que voit l'artiste, ce qu'il peut éventuellement expérimenter en parcourant ce qu'il fait, et le non-sight, au fond, c'est ce qui est annexe et ce qui n'est pas... Ce qui est vraiment, c'est que toutes ces œuvres sont dans des sites difficilement accessibles, beaucoup d'entre eux en tout cas, et que par conséquent, d'une certaine façon, ils ne sont pas faits pour être vus, ils sont faits pour être donnés à voir dans le non-vu, dans le non-sight. Oui. Et vous parliez à un moment de solipsisme, je pense qu'il y a plus que du solipsisme, il y a une sorte de jouissance de la création et de l'expérience de ces sites par l'artiste, qui d'une certaine façon ne se pose pas la question, alors classique auparavant, hein, de la visibilisation de ce qu'il fait à un public plus large. Et ça, c'est très frappant par rapport à des formes d'inscription dans des lieux que l'on trouve de façon traditionnelle à maintes reprises, mais pas simplement quand vous avez évoqué Nazca, mais à maintes reprises, j'ai eu à l'esprit des types de géoglyphes et de choses comme ça qui sont courants dans bien des régions du monde, où on fait exactement le même type de choses, mais à des fins qui sont soit rituelles, soit de visibilisation collective. Je pense en particulier à le kick, là, cette chose très simple, hein, c'est un coup de pied dans la terre, ça trace un sillon. Bon, ça, c'est quelque chose de classique de l'Australie, au fond, hein, c'est-à-dire on a une sorte de petit ravin ou de petit fossé, et bien c'est la queue du kangourou, l'être du rêve qui est passé par là, qui a formé cette partie du paysage. C'est quelque chose de très simple, tout le monde le sait, tout le monde n'y a pas accès nécessairement, mais tout le monde sait ce que c'est, etc. Et c'est cette espèce de jeu entre le visible et le non-visible, ou la visibilisation et la... ou deux types de visibilisation, pour employer terrible néologisme, qui m'a frappé dans le land art. Donc, c'est la première remarque qui me vient à l'esprit.
Alors, je comprends bien. Et en fait, en même temps, je pense que c'est... évidemment, c'est ce que vous dites, mais c'est paradoxalement pas exactement ça, parce que ces artistes postulent qu'en fait, on va faire cette expérience. C'est-à-dire que pour eux, par exemple, Heiser dit, le double négatif... D'abord, il y a plus de gens qu'on ne pense qui vont le voir, dit-il, avec une certaine satisfaction, mais qu'en fait, on fait bien le déplacement pour aller voir des œuvres au Louvre, on prend l'avion, on vient de je ne sais quel pays, et pourquoi est-ce qu'on ne viendrait pas voir le double négatif en avion et en faire soi-même l'expérience ? Alors, évidemment, c'est beaucoup plus exigeant. Smithson aussi, pareil. Smithson, il rêvait de voir des familles sur sa spirale. Bon, alors, sa spirale est engloutie régulièrement, elle est difficile d'accès, elle est... quoique... aujourd'hui, de plus en plus facile, finalement. Et peut-être qu'on va arriver, en fait, à un endroit où il y aura des cars, des touristes qui viendront, c'est possible. Mais ces artistes ne veulent pas soustraire intentionnellement ces œuvres. En fait, ils requièrent une expérience exigeante de la part du spectateur, une expérience peut-être pas seulement solitaire, enfin, moi, je dis solitaire parce que je l'ai fait solitaire, mais une expérience exigeante, en tout cas, et qui n'est pas hors champ, quoi. Et les photographies ne sont que des substituts pour eux. Ce sont des modes d'accès qui nous donnent une idée de ce que ça pourrait être ou de ce que c'est, mais la dialectique du sight et du non-sight indique bien qu'en fait, ce n'est pas suffisant. Il faut, on informe la vision, mais il faut aller voir sur place. Donc, en fait, c'est un peu paradoxal, là, je suis d'accord, parce que c'est pas ça. Il faut le vouloir, quoi. Elles sont des œuvres exigeantes, il faut les désirer, mais c'est pour ça que moi, dans mon livre, j'ai mis des cartes à la fin, parce que mon idée, c'est que les gens qui liront ça iront sur place, sinon on ne comprend pas vraiment bien. Franchement, c'est pas pour dire j'ai traversé les déserts. C'est une véritable expérience physique. Et c'est pour ça que j'ai fait allusion au début à Maurice et à ce qu'il disait du rapport de l'œuvre au lieu dans lequel elle se trouve et au spectateur, parce que ces prémices-là font comprendre mieux en fait ce qui se passe ensuite dans la manière dont nous envisageons l'espace de l'œuvre et notre rapport personnel à cet espace avec tout ce qu'il y a autour, le soleil, la nature, etc.
Il y a une autre chose qui me frappe aussi, c'est que dans la première phase du land art, en général, il y a un aspect démiurgique, c'est-à-dire véritablement, l'artiste laisse sa présence par des choses qui tranchent sur la nature de l'environnement au sein duquel les œuvres sont créées, par contraste avec une seconde période dans laquelle, au fond, on est plus proche, disons, de la tradition paysagère, de transformation légère visant à modifier un environnement et que les constructions, les fabriques, pour employer un terme classique dans l'art des jardins, ne tranchent pas trop, en quelque sorte, sur l'environnement. Et donc, c'est une attitude artistique, me semble-t-il, qui est aussi très, très différente dans les deux cas.
Oui, absolument. Oui, c'est juste, et c'est une attitude qui est beaucoup plus proche, en fait, du corps, hein, des préoccupations liées à la dimension du corps humain et aussi au jardin, ou en tout cas un intérêt pour... Alors, c'est un intérêt toujours pour le processus, mais c'est plus le processus de... C'est plus les énormes blocs de rochers qu'on déplace, c'est quelque chose de beaucoup plus... de beaucoup plus évident d'un certain point de vue, même si cette évidence, en même temps, se paye au prix de la postulation de quelque chose qui nous échappe complètement. Quoi. C'est pour ça que je parlais de l'invisible, mais il y a aussi ça, cette idée qu'à travers l'art, la nature nous est donnée à voir et enfin, que l'art creuse, de cette manière, le mystère de la nature. Quoi, pour dire ça.
Puis, il y a quelque chose aussi qui m'a frappé, c'est la question des citations, c'est le terme que vous avez employé, je crois, au moins une fois. Alors, il est... Bon, Nazca est présent, en effet. Vous avez mentionné aussi... la Grande Muraille de Chine pour ce rideau, oui, c'est ça. Au fond, beaucoup de ces artistes ont du fait de leur savoir, de leur connaissance, de leur culture, un catalogue d'images environnementales à l'esprit qui vont reproduire de façon plus ou moins sous forme de citation, plus ou moins originale. Et Est-ce qu'on peut penser, est-ce que selon vous, on a à peu près tout l'éventail des citations possibles dans le Land Art par rapport à des grandes réalisations connues, oui, du type de celles qu'on vient de mentionner?
En fait, oui, beaucoup, parce qu'ils ont beaucoup regardé, par exemple, le livre Architecture Without Architect, Architecture sans architecte, il y a un livre de Bourdon, par exemple, qui fait un peu le contraire de ce que je me suis amusé à faire en montrant des œuvres comme, par exemple, je n'ai pas parlé des Mound Builders, mais ça aussi sont des références pour eux, le Grand Serpent, de la... Bourdon, lui, il fait le contraire, c'est-à-dire, il montre toutes les réalisations, des réalisations qu'on pourrait voir dans le livre de Architecture Without Architect, mais où le Land Art, c'est le dernier chapitre. Juste, et en fait, tout ça est précédé par un ensemble d'œuvres qu'on pourrait appeler des architectures vernaculaires ou primitives, il y a toutes sortes de termes, qui des architectures en terre, qui en fait sont le fond commun, d'une certaine manière, le catalogue visuel, formel, de tous ces artistes. Ils ont tout ça en tête. Ils sont très intéressés par ce genre de choses. Alors, ils le font avec plus ou moins d'intention, ils le font de façon plus ou moins consciente. Je vous ai montré le serpent de Chichen Itza, qui est là et délibérément stylisé par Heiser, mais il y a toutes sortes d'autres choses qui se trouvent là et qui ne le sont pas en toute connaissance. Lui, il est très informé parce que, par son histoire, hein, ses grands-parents, en plus, étaient des géologues, cartographes. Enfin, il y a une filiation comme ça, constante, qu'il ne faut pas perdre de vue. Mais quelqu'un comme Suisson était très cultivé, il connaissait très bien tout ça. Et il y a aussi un personnage important dont je n'ai pas parlé, qui est Kubler. Parce que Kubler, au début des années 60, hein, donc le sort Shape of Time, Forme du Temps, qui a d'ailleurs été traduit en français en 73. Et ce livre, il va beaucoup frapper les esprits. C'est Adrien Hart qui le fait circuler au milieu de tous ces gens. Et donc, cet archéologue, enfin, qui connaît bien l'art mésoaméricain, enfin, il va être cité très souvent par eux, ou dans leurs textes, il va leur faire regarder les œuvres et comprendre les temporalités de façon très différente. Donc, ils sont informés, de votre domaine un peu, de l'anthropologie, d'une manière assez extraordinaire, quoi. Comme on ne le voit pas chez d'autres artistes qui s'intéressent beaucoup moins à ça, plus récents.
Alors, je ne vais pas monopoliser la parole, mais j'ai une dernière question, enfin, pas une dernière, j'en ai encore beaucoup d'autres, mais concernant la temporalité précisément, c'est quelque chose aussi que vous avez évoqué à plusieurs reprises, parce que beaucoup de ces œuvres sont, sinon éphémères, en tout cas, elles se détériorent, elles sont... transformé en tout cas avec le temps, c'est quelque chose qui est prévu, envisagé par les créateurs de ces œuvres. Est-ce qu'ils les pensent complètement en fonction du processus de transformation, ou bien est-ce que c'est simplement disons quelque chose d'inévitable dont ils doivent prendre en compte?
Alors, en fait, non, la plupart du temps, sauf au tout début, où ça les a intéressés, cette dégradation, en fait, progressivement, non. Ils se sont même intéressés à leur restauration, en fait. J'avais fait une intervention pour des restaurateurs, justement, sur la restauration des œuvres du Land Art. Et en fait, il y a eu des solutions envisagées. Il y a eu, par exemple, là, je ne vous ai pas montré cette œuvre, mais celle qui se trouve dans cette carrière remplie d'eau, qui est l'œuvre de Smithson, qui s'appelle Spiral Hill, et puis en bas, il y a Broken Circle. Elle a été heureusement préservée par le propriétaire de la carrière, mais elle était en très mauvais état, en fait. Les gens venaient prendre des bains l'été, et tout se détériorait progressivement. Alors après, on a fait des systèmes pour la consolider, et du vivant même de Smithson, donc, puisqu'elle est de 71 et qu'il meurt en 73, il s'intéresse déjà à l'idée de pouvoir la restaurer. Il donne des indications, il dit on pourrait faire ça, on pourrait surélever. La spirale, pareil, il avait l'idée, parce que de son vivant, la spirale avait été recouverte par les eaux, et ensuite découverte à nouveau. Découverte, mais pleine de cristaux de sel blanc, qu'il avait trouvé super par ailleurs, mais il avait bien compris qu'en fait, ça se reproduirait, ce phénomène. Et donc, il avait imaginé de surélever la spirale. Heiser, que j'évoquais, me disait, bon, ce coin qui s'est... On ne la voyait pas sur l'image, mais ce coin qui s'est effondré, moi, si on veut la restaurer, comment? Ça, j'en sais rien, mais je serais d'accord. Donc, si vous voulez, en fait, non, la plupart du temps, ces grandes œuvres monumentales, il ne pense pas qu'elles devraient se disparaître, il n'aimerait pas qu'elles disparaissent, or elles disparaissent en fait, elles sont vouées à disparaître progressivement. C'est ce qui arrive, il y a un groupe d'artistes qui s'est mis à enquêter sur leur histoire et qui s'aperçoit que bon, la plupart sont en train de s'évanouir dans le temps, quoi. C'est des gestes gigantesques et totalement dérisoires, et c'est ça qui est assez beau.
C'est sûr qu'il y a des questions. On a encore un peu de temps.
Il y avait, dans les années 70, une grande exposition au Musée d'art moderne de New York sur le primitivisme et les arts visuels du XXe siècle.
Oui.
Il y avait toute une section justement sur ces œuvres dites size specifics, que vous pouvez montrer, Oppenheim, Walter de Maria et autres, et justement leur correspondance et leur résonance avec cette notion de primitivisme.
Mais oui, j'aurais pu. Alors, c'est évident, j'ai pensé à ça parce que c'est. Je vais te dire, est-ce que je vais orienter plus là-dessus, mais vous connaissez plus ça par, comment dire, par destination, si j'ose dire, puisque vous êtes un anthropologue et que vous avez cette culture. Donc, je me suis dit, je ne vais pas insister là-dessus. Mais c'est vrai, bien sûr, c'est le catalogue, d'ailleurs, très beau, qui a été traduit en français, montre les œuvres de Maria, d'autres. Ritual Gates, par exemple, de Singer, d'autres que je vous ai montrés, qui sont associés à cette idée de primitivisme. C'est juste. Et c'est très important pour eux. Enfin, c'est une dimension. Oui. Oui. Oui, c'est bien que vous me disiez ça, parce que je pense que, par exemple, je ne vais pas du tout développer ça, mais c'est pour ça que les cabanes m'intéressent aussi, ce type de construction que j'appelle des cabanes, et qui ne sont pas forcément des cabanes, mais qui développent quelque chose autour de l'idée d'espace psychique, en fait. Et il y a cette dimension dans les œuvres plus récentes qui n'est pas du tout apparent dans les premières œuvres du Land Art, quoi, qui est... Du coup, c'est pour ça que m'intéressait aussi le texte de Ingold sur la hutte, parce qu'il y a cette idée d'intrication entre le psychique et le physique, cette espèce de tissage, comme il dit, le tissage du sujet et de l'objet, que les cabanes, alors lui, il en fait quelque chose d'un peu différent avec le ciel et la terre, mais c'est un beau texte, je trouve, enfin, moi, qui alimente en tout cas ma façon de voir ces objets.
Et d'ailleurs, ce qui est très frappant quand on regarde le symbolisme de la maison, c'est que j'avais consacré mon premier séminaire il y a 14 ans ici, dans cette maison, à cette question, symbolisme de la maison, que le degré d'élaboration architecturale n'est pas du tout corrélé à la complexité symbolique, disons, de la maison, et qu'on trouve dans dans ce qu'on pourrait appeler des huttes, la yourte, par exemple, qui est un symbolisme d'une très grande richesse, donc des types d'édifices qui sont relativement simples sur le plan technique, qui ne sont pas très longs à élaborer, très souvent la tente berbère, très souvent des élaborations symboliques qui sont beaucoup plus complexes que dans des maisons plus complexes sur le plan technique, en tout cas avec des plus de matériaux et de complexité architecturale. D'autres questions ?
Jean Ferrand, vous le situez dans le montage ?
Pas vraiment. J'ai du mal à le... Donc Jean Ferrand, c'est un artiste qui a peint, par exemple, dans le Tibesti, au nord du Tibesti, il a peint des montagnes, enfin, de couleurs très vives. C'est pour moi, c'est un peu un peintre qui travaille dans le... C'est comme un peintre qui travaillerait sur des volumes, quoi, plutôt. C'est pas un artiste de l'art pour moi. Pas du tout. C'est pas quelqu'un qui pense en volume dans ses. Il travaille sur des paysages qui sont soumis à un régime de représentation qui n'est pas celui que les artistes du Land Art requièrent pour pouvoir explorer leurs œuvres. Et c'est comme s'il réduisait pour moi le volume en deux dimensions, à l'inverse.
Il y a une chose qui est frappante d'ailleurs dans beaucoup des photos que vous avez montrées, qui sont où les œuvres du Land Art sont dans des zones plutôt désertiques avec des figures plutôt géométriques, et donc il y a un effet d'ombre et de la construction des ondes, l'ombre portée, oui. qui est très très nette, évidemment, oui. du fait de la vivacité de la lumière et du caractère géométrique des figures. Et je pense que c'est délibéré.
Oui, oui, absolument. Oui, ça, c'est très construit. C'est... Tout le problème de la représentation photographique, c'est un problème important pour eux, mais en tout cas l'idée, c'est de ne pas s'en tenir aux photographies la plupart du temps. C'est que les images ne sont que des moyens d'accéder, alors avec de façon différente, ou alors des façons de décomposer l'œuvre. Par exemple, Michael Heiser, il a fait une photographie du double négatif que je reproduis. Alors c'est une photographie très longue, mais alors c'est comme une boîte à chaussures. Il photographie mètre carré par mètre carré, tout le fond, puis tout le côté droit, puis tout le côté gauche. Et on a les trois photographies en long, topographiques, en fait. C'est des topographies, quoi. Et ça vous restitue... Donc, elles sont dépliées comme une boîte, et ça vous restitue les éléments du site, comme si c'était la matérialité même qui ressortait, juste ça, quoi. Alors ça, c'est l'un des dispositifs.
Nicole, dernière question.
C'est plutôt l'historien d'art que vous m'adresserez. Quand je regarde cette image, qui est justement l'idée de la projection de l'ombre, je vois le paysage comme une toile de fond, et je pense au peintre futuriste.
Oui.
Je pense qu'il y a un lien
dans
la recherche sur la structure avec Alessis, Kim-Malevich.
Oui, absolument. Oui, et ça...
Je n'ai pas du tout fait référence, évidemment,
à ce qui est dans les années... Non, mais vous avez absolument raison, parce que ce sont des vraies références pour eux, en plus, ils connaissent ça très bien. Oui, vraiment. Oui, ça fait partie. Oui, oui, c'est ça. Oui, absolument. Non, c'est
très bien. C'est très théorique.
Oui.
Je vois là un tableau futuriste.
Oui. Et puis Malevich, les spéculations de Malevich aussi sur le suprématisme, les vues d'avion, enfin, tout ça est très présent. Smithson cite Malevich.
Et Mondrian qui passe du paysage qui transforme le paysage en un système différent pour essayer de redonner en fait de la sphéricité et du volume à l'image en prenant en compte le caractère plan de la surface.
Non, c'est sûr que j'ai dû réduire tout. Hein, vous voyez, alors il faudrait votre séminaire tout entier pour pouvoir, pour pouvoir développer
tout ça. En tout cas, vous êtes très reconnaissant de cet exposé. Merci.